Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Underscore. Ça va?
Ça va très bien et toi?
Je ne suis pas du tout moins stressé que la dernière fois.
C'est fou, ça ne part pas.
Non, ça ne part pas. On a un petit peu de retard, veuillez nous excuser. Il est quoi? Il est 12 minutes.
Intolérable.
C'est compréhensible. On était encore en train de régler des très gros problèmes à une minute avant le live. C'est vrai. Ceci explique cela, voilà. Mais je suis très content de vous retrouver ici pour ce deuxième épisode de cette fabuleuse émission qui s'appelle Underscore. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine?
Franchement, pas mal. Je suis très productif en ce moment. Ouais. C'est un truc de ouf.
La nouvelle émission de productivité.
Oui, oui, c'est ça. Je suis sur Clubhouse. Donc, automatiquement, j'entreprends. Tu vois.
Très, très
startup. Mais non, en ce moment, j'ai 6 grosses vidéos dans ma sacoche là, qu'on est en train de préparer, qui demandent des prods pas possibles. Il faut qu'on voyage en dehors de Paris et tout. Et je balance les 6 en même temps. Donc, j'ai un peu envie de crever. Mais en vrai, ça va être vraiment
c'est
très
beau.
Cool.
Tu vois, c'est beau.
Et moi, j'ai un total de 0 vidéo en préparation.
Oh, c'est excellent, mec.
À chaque fois qu'on me demande c'est quand la prochaine vidéo, je ne sais pas moi-même. Voilà. Mais non, très bonne semaine. Écoute, du beau temps. Voilà. En vrai, moi, ça a été marqué par
les éclaircies.
Du beau temps.
Ouais. J'y pense.
Je n'ai pas parlé météo directement.
Peut-être qu'il faut présenter notre ami.
C'est vrai.
Tout de même. Oui. Donc, on accueille pour cette deuxième émission Hardisk, vous le connaissez. C'est le je ne veux pas dire le titulaire, mais.
Le punchliner.
Voilà, c'est ça fait déjà 12 émissions. Donc, ça commence à faire une bonne bouteille, quoi.
Il est chez lui.
Et puis notre ami Sylvain, que vous connaissez sûrement pour ses enquêtes,
par exemple.
Pourquoi ses vidéos culturelles.
Sur Motus, par exemple.
Ah oui, pour son passage sur Motus, extrêmement célèbre grâce à ça.
Ouais, tu sais qu'on en parle encore très souvent, mine de rien, de Motus. C'est un truc qui revient presque plus que les enquêtes.
Et tu le vis comment, personnellement?
Je suis assez content, finalement. En fait, je suis assez content que ce contenu-là vive aussi.
Ah ouais.
Parce que, donc ouais, je fais des enquêtes. Donc y a celle
on peut citer quoi comme enquête?
Celle sur la main fâchée, bien sûr, hein, qui a marqué les esprits. Où vraiment, c'est une trentaine de minutes où on essaie de trouver qui se cache derrière la main fâchée suite à l'époque...
Incroyable cette vidéo.
Les enquêtes qu'il y avait eu, merci, ça fait plaisir.
Et t'as vu un avant-après un peu sur ta chaîne avec cette vidéo parce que...
Ah bah oui, j'ai vu...
je pose la question mais je m'en doute.
Oui, non, bah ouais, je devais avoir... j'étais quand même à 40 000 abonnés, je pense, avant. Ça avait bien grimpé et j'ai gagné plus de 100 000 abonnés avec cette vidéo, c'était délirant, tu vois.
Ouais.
J'avais pas prévu spécialement d'être YouTube.
Comment ça se passe quand tu uploades cette vidéo et qu'il se passe genre une semaine, deux semaines, trois semaines et que tu penses à la prochaine? Est-ce que t'es en mode, genre, tu sais, t'allumes ta caméra, genre, alors bonjour, tu vois, genre un peu.
Est-ce que ça se perd?
De quoi ça se perd?
Le truc.
Non, mais surtout avec une audience, genre décuplée. Il était PME de YouTube et il est revenu avec la tour TF1, tu vois. Donc c'est incroyable, quoi.
Non, ouais, en vrai,
on t'envoie des compliments, en tout cas.
Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Et on t'a découvert aussi, visiblement, beaucoup avec cette vidéo, quoi.
Ok, je pensais que Motus allait ressortir, je suis un peu triste. Mais... non, je rigole. merci beaucoup, déjà, ça fait plaisir. Et ouais, bah, en fait, c'est un vrai problème de se dire. Tu parles plus à la même audience. C'est-à-dire qu'avant, tu peux faire des trucs. Tu parles à 10 000, 20 000 personnes, c'est une chose. Mmh. Quand tu fais des enquêtes et que tu pars, tu sais, tu connais les problématiques des enquêtes qui sont forcément juridiques derrière aussi, potentiellement. Ça peut avoir des merdes derrière.
Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est fait un petit Discord avec tous les copains qui font un peu des trucs de type enquête et tout?
C'est vrai.
Pour au cas où, pouvoir se filer des petits tips.
Exactement. Bah, en vrai, oui, c'est ça. Je pense que l'intérêt, il est commun pour tous, c'est de ne pas se marcher dessus sur les sujets, de pouvoir s'entraider avec les ressources qu'on a.
On pourrait créer un wall of on s'est déjà fait mettre en demeure maintes fois.
j'ai eu ma mise en demeure, c'est vrai, moi aussi.
Voilà, on a un petit badge.
J'en parle de temps en temps, mais suis au lama.
Il y a le roi des rats.
Ouais, je pense que le roi des rats, ses mises en demeure, il doit caler ses meubles avec tellement il doit en avoir. Je pense que il doit très bien connaître ce sujet. Enfin, il en parle, hein, d'ailleurs. Ses vidéos là-dessus sont très intéressantes. Je trouve que c'est aussi bien de montrer l'après, parce que bon, c'est cool de faire une vidéo, mais quand t'as après effectivement ces mises en demeure qui sont essentiellement en général des pressions.
Oui, il se passe rarement quelque chose derrière. En fait.
C'est rare, sauf si vraiment t'es face à une vraie structure qui veut t'emmerder ou que t'as vraiment détruit
mais,
quelqu'un.
Oui. Mais après, ils ont raison, entre guillemets. Tu vois, si tu te mets dans leur position,
c'est un peu le jeu.
Le fait qu'on soit des petites structures, des microstructures, ça fait que une personne sur trois va se dire bon, allez, une lettre avec, bien formulée avec un avocat et tout. Bah, tant pis, tu vois. Nous, on peut se le permettre aussi parce qu'on a des chaînes importantes et puis on peut se passer les contacts des avocats et tout. Mais je sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Emma Kickup, mais ça avait marché en fait. Ils avaient bombardé les lettres de mise en demeure et puis il restait un dixième des vidéos après quoi.
À la lettre, il y a quand même un tampon dessus. Donc,
Eh oui, ouais. Très impressionnant.
Mais je sais pas s'il n'y a pas eu un procès lancé après ça quand même ou il n'y a pas eu un.
Si, il y a eu un début de procès,
il me semble,
avec deux petits youtubeurs. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait juste avec eux et pas avec tous les autres qui avaient fait des vidéos.
Plus facile, peut-être.
Je pense que peut-être que eux aussi ils avaient pris moins de garde sur comment ils formulaient les choses parce que ça s'apprend aussi en vrai de prendre des précautions, de parler au conditionnel,
d'être journaliste en fait.
Voilà, exactement. Et peut-être que ces deux-là, j'ai pas vu leur vidéo, mais peut-être qu'ils avaient pas fait autant attention que nous. Et du coup, ils sont retrouvés au tribunal. Mais je crois que ça n'a pas duré très longtemps. En fait.
Ça n'a peut-être pas duré très longtemps, mais au moins, tu vois, ça sert un peu d'exemple pour dire, regardez, en fait, ça peut arriver.
Oui.
Et ça, je pense que, mine de rien, en termes d'effets, pas spécialement pour Emma, voilà, ça ne me concerne pas, tu vois, cette histoire. Mais de se dire que n'importe qui pourrait le faire, en tout cas, si tu as cet effet-là qui arrive, bah, ça reste intimidant pour la suite.
Ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Vous demandez quel est le thème de cette émission, et vous avez bien fait. Parce que c'est
la
vrai,
cuisine. Quoi.
On a un potentiel de divaguer qui est assez énorme.
Ouais.
Donc, underscore, pour ceux qui découvrent cette émission, parce que c'est possible qu'on soit en homepage de Twitch. Et ça, c'est quand même sympa.
C'est sympatoche, ouais.
À confirmer, mais je crois que c'est le cas. Underscore, c'est une émission qui parle d'IT. L'IT, c'est quoi? C'est les technologies de l'information. Est-ce que je sonne un peu
informe-moi.
C'est ce geste, en fait. C'est ce geste.
Tout est dans la gestuelle.
Et donc, l'IT, c'est la cybersécurité, le développement, la bidouille, l'informatique, en fait. Voilà. Donc, cette émission est faite pour tous les passionnés d'IT. C'est un rendez-vous qui est normalement à partir de cette émission hebdomadaire. On se retrouve tous les mercredis ou jeudis. On va le voter bientôt à 20h. Parce que le problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'on a un peu de concurrence, notamment Nicolas Sarkozy.
Oui.
C'est la seule raison.
J'ai appris
c'est
ça, toi genre, qui m'as juste
j'ai
avant.
J'ai dit, ouais. Les gars, vous ne saviez pas qu'on était quand même sur un gros live qui s'appelle TF1, hein, qui est une chaîne de télévision. C'est une sorte d'ancien
un
live.
Live ouais.
C'est un live, mais un peu des années 90. Et oui, il y a Nicolas Sarkozy.
On est bien
gros streamer. Hein.
Je suis un dev dédicace.
Ouais. Et Fabien Olicard dans le même JT, apparemment. J'ai vu ça sur Twitter. J'ai vu les infos se télescoper, j'ai fait waouh, ils vont se croiser en police, peut-être ça l'analyser, je sais pas.
Le début d'une amitié, peut-être.
J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe, s'ils se croisent, ils vont forcément se dire bonjour, tu vois.
Et je veux.
Si t'es Fabien Olicard, tu crois que Sarkozy par réflexe, par automatisme, c'est humainement, t'es genre bonjour, tu vois, enfin voilà.
Il va se faire mentaliser.
Un peu, tu vois.
Ouais, tu vois, je pense qu'on a l'habitude de croiser des gens connus, tu vois, un peu dans notre milieu ou parfois un peu plus haut que notre milieu. Je pense que tu croises un ancien président, t'as toujours un truc de oh, c'est bizarre.
Tout en vrai, ça doit être étrange.
Donc, le thème. Parce qu'il y a quand même un thème. Alors, l'idée, c'est qu'on est très libre de nos sujets, donc c'est ça qui est génial. Mais on a une petite direction pour l'épisode d'aujourd'hui. Je peux résumer ça en disant les technologies audiovisuelles du futur.
Putain, c'est dingue. C'est exactement mon domaine d'expertise.
C'est dingue.
Moi, je suis juste là.
Non, justement pas. Non, tu dis
non,
ça,
non,
mais
non,
c'est
non,
faux.
Ouais, non, ouais, attends.
C'est vrai qu'on s'est très bien trouvé.
Exactement. Ça tombait extrêmement bien. Parce que l'organisation de cet épisode était un peu chaotique.
J'ai été invité il y a 24 heures.
Il rigole.
Ça drop les vraies infos c'est, par ici.
Il y a des bonnes raisons. Rien à la puissance de cette invitation.
Voilà, exactement. C'est vraiment, honnêtement, on s'est très bien trouvé. On était très contents puisque tu travailles également sur des trucs liés à l'audiovisuel, la production vidéo, pas conventionnelle, on peut le dire.
Oui. Oui, oui, bon, c'est peut-être des très grands mots, mais on en parlera de toute façon.
Voilà, en mots-clés, en petit teasing de ce dont on va parler, c'est pour Twitch.
C'est pour Twitch, ouais, j'en avais parlé un petit peu sur Twitter. Je suis en train d'essayer
ça
de.
Ça parle de jeux vidéo un peu, parce que tu utilises des. Voilà.
C'est, ouais, on va en parler. Bah, quand tu veux, tu lanceras le sujet.
Voilà, t'inquiète pas, on aura le temps de revenir sur ce sujet-là, en long, en large, en travers. Et également, Hardisk nous a préparé une petite chronique des familles.
Oui, car je suis journaliste.
Quel est ton
très
sujet
peu. On va parler d'une techno qui est sortie il y a une semaine et demie à peu près, par une société qui est pas très connue du grand public forcément, mais qui va vraiment complètement changer la façon dont les gros studios hollywoodiens ont de tourner des blockbusters. Voilà.
Rien que ça.
Oh, mais quel teasing. Ouais, ouais.
Bah, je fais du clickbait dans la voix. Que je suis assez fort.
C'est une marque en plus qui est pas mal connue, celle dont tu vas parler, qui est pas mal connue.
Dans le milieu de l'audiovisuel.
Dans le milieu, et ouais, aussi ouais. Le milieu YouTube, etc. Parce que c'est des outils assez modernes quand même. Donc ça va être super cool. Et pour finir, moi je vous parlerai de Massman. Puisque. Non mais c'est vrai. Non mais pas genre. Pas un, pas un daily vlog.
Jour par jour.
Je vais
jour.
Vous parler.
Petits horaires.
Quand seconde. Est-ce que tu as fait les courses, Micode?
Vous parlez de ce sur quoi je suis en train de bosser, à savoir les outils de no-code. Et j'ai découvert des trucs super stylés et je fais que ça toute la journée. Donc de toute façon, je peux vous parler que de ça. Mais on va bien s'amuser et on aura le temps de revenir dessus, je pense, sur ma chaîne YouTube plus tard. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais faire une démo de no-code, un truc rigolo en utilisant Twitch et tout. Mais comme vous avez pu le constater, il y a eu des petits soucis, notamment plus de batterie sur mon iPad. On est sur un niveau de problème vraiment énorme. Du coup, voilà, ce sera pour la prochaine fois la petite démo en live. Mais on va essayer de faire des trucs en live de temps en temps parce que c'est l'occasion aussi. On a un thème de type IT. Je peux parler plus fort. Oui, je peux parler plus fort. On a un thème de type IT, donc c'est l'occasion d'expérimenter aussi avec les API de Twitch. Et pour faire des trucs rigolos. Parce que sinon, ça, c'est pas français. Est-ce que vous avez vu la vidéo que j'ai sortie hier ou ça vous intéresse très
moi,
peu
oui.
Ce que je fais en général?
Moi, j'ai regardé que la moitié parce qu'après, tu m'as invité et du coup, j'ai dû bosser des trucs. Pour...
Ah oui, c'est vrai.
Du coup, j'ai raté le début, j'ai raté la fin.
Vous allez voir ce qu'il nous a préparé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça va, t'as bien aimé?
Je t'ai dit dans le groupe chat de la capsule que j'ai trouvé que c'était une de tes meilleures vidéos.
Ah bon,
qui ne parle même pas de tech, c'est quand même
oui,
terrible.
C'est ça qui est dingue.
Mais
un peu,
en fait,
mais
non,
c'est pas très technique. Ouais.
T'as un storytelling qui est formidable.
Oh, vraiment, mais je te remercie. Écoute, ce qui a changé dans cette vidéo, c'est que je l'ai écrit.
C'est que j'ai bossé, les mecs. Mais... C'est fou,
non,
ça.
Mais... C'est-à-dire que j'ai déjà, tu vois, parfois tu fais un plan ou un truc comme ça, mais j'ai toujours eu ce côté un peu live. Mais tu dis, toi aussi, tu fais, t'es un peu.
Je n'ai jamais écrit une seule de mes vidéos.
Ou un plan, tu vois, mais pas plus, quoi. Et là, c'est un exercice hyper spécial. Toi, je pense que tu dois écrire mot à mot, non?
On m'avait déjà dit, oh, on a l'impression que t'écris pas ton texte. Et je fais, franchement, on pourrait le sortir en article. En fait, c'est un grand article dès le départ.
C'est génial.
Attends, mais est-ce que t'écris genre, bon, bah voilà ça. Genre, ça, tu écris de manière aussi littérale que ça?
Tout. Et ensuite, en fait, j'écris tout déjà pour ne pas oublier d'infos. Parce qu'en général, il y a plein de trucs. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de pouvoir. Tu vois, se dire, je lis ma phrase comme je veux qu'elle sonne dans ma vidéo et ensuite je la refais tranquille, tu vois. Mais en général, je fais des prises par deux.
Oui, c'est pas parce que t'écris que tu dois avoir une voix de documentaire.
Voilà. Mais je l'écris vachement parlé aussi, tu vois. Donc,
mais, et du coup, à quel point est-ce que tu rejoues tes phrases? Genre beaucoup ou peu?
Ça dépend de si je sens que j'ai bafouillé, tu vois.
Tu vois, genre pour des phrases qui sonnent un peu naturelles, ça fait bizarre, c'est-à-dire que tu les as répétées 20 fois, tu vois, genre, ouais. Ah bah là, c'est un peu comme machin truc, ah bah là, ouais. C'est un peu comme machin truc.
Honnêtement, je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais là, justement, tu vois, on est en train de se dire, par exemple, sur une vidéo comme Epic Games où t'as 40 minutes à la fin, j'ai pas envie de t'enregistrer, tu vois.
Oui, exactement. En fait, ce que je me dis aussi, c'est que toi, avec tes formats, il y a un moment où t'as plus le choix quand ça commence à faire des durées de 30-40 minutes, t'es obligé de faire un élagage massif, quoi. Et ça passe forcément par l'écriture plus ou moins mot à mot, quoi.
Ouais, et aussi, tu vois, ne pas tourner ce qui n'a pas besoin d'être tourné. Par exemple, avant, je savais pas forcément ce que j'allais illustrer directement, tu vois, dans ma vidéo. Maintenant, je prépare mes animes avant, je calme ma voix avant, et ensuite, il y a plus que des trucs.
D'ailleurs, on va pouvoir revenir sur ça parce que. Dans les animations, t'as des trucs vraiment hors du commun, je tiens à le dire. Et du coup, on va pouvoir voir tout ça juste après. Mais ouais, c'était une vidéo hyper importante pour moi parce que, en gros, je reviens sur, pour ceux qui l'ont pas vu, je reviens sur la création de cette émission, sur d'où ça vient. En fait, moi, c'est une idée que j'avais depuis vraiment longtemps, quoi, de pouvoir faire un talk show. Je me souviens, il y a eu un des moments où j'ai pu voir un peu à quoi ça ressemblait, c'est quand toi, t'avais, Henri, t'étais passé sur le live. Mm-hmm. Ça s'appelait comment?
Le live.
Turfu, voilà, c'était ça. Et
j'ai repris en indé sur Twitch, du coup.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'étais un de tes invités, je m'étais dit, putain, c'est pas mal.
C'est vrai que t'étais passé.
Ouais,
je me souviens.
On était 12. Non, c'est pas vrai en plus. Il y avait plutôt des audiences OK. Des audiences
on était dans les audiences OK de la chaîne. Hein. Ouais. Après, tu vois, après, t'es forcément.
Après, à l'échelle
capé,
de le
relatif, oui, mais. par rapport à.
Non, mais c'est pas ça. C'est juste que t'as eu pas de chance, entre guillemets, sur le.
Non, mais tu sais, moi, je l'ai bien vécu. Hein.
Ouais.
Et que vraiment, moi, j'avais un cadre pour faire une émission qui me plaisait bien. On faisait partie des émissions qui avaient vraiment des bons retours. Et moi, j'étais juste là. En fait, tu vois, j'avais l'impression d'avoir une pièce en bon état dans un immeuble qui s'écroule, tu vois. C'est-à-dire que j'étais là, genre, oh, bah, les murs sont sympas, il y a un mur porteur, c'est sympa, tu vois. Mais
t'es revenu d'ailleurs dessus dans des vidéos,
moi, ouais, j'ai eu le temps, j'en ai parlé sur Twitch, ouais.
Et donc c'était l'occasion d'expliquer que voilà, ça faisait un bail que j'avais ça en tête. Mais que c'est...
J'ai pas revu ça depuis très longtemps.
Ah, waouh!
Oh,
l'archive! Oh, l'archive! Ah merde!
Le décor était pas mal. Je sais pas si on est aussi good au niveau du décor. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens, mais je sais pas si on est aussi bon au niveau du décor.
Je trouve la prod et l'image beaucoup plus belle sur ton live actuellement que ce qu'ils ont fait.
Et bah vas-y.
Ça se voit, mec. Y a...
C'est vrai qu'il y a. Nous, en fait, nous,
en fait, c'est la light.
Non, mais c'est la light, c'est les... juste t'as des petits flous.
C'est juste qu'on a des caméras de. On triche, on a des caméras de vidéo, en fait. Donc
ça marche très bien.
Donc voilà, c'est forcément, c'est un peu la triche. Mais c'était hyper important, voilà, de vous expliquer qu'en fait, c'était dur. C'était vraiment, c'était accouché de cette émission, on va dire. C'était vraiment très compliqué. Et qu'en fait, tout a changé, ouais, c'est ça, vers décembre dernier, quand j'ai rencontré l'équipe de N26, avec qui on était déjà très potes, mais il y a César, toi tu l'as vu parce qu'il est venu au bureau.
Oui, je l'ai vu passer au bureau.
Mais ouais, c'est César, c'est notre bon pote de là-bas avec qui on crée tous nos trucs. Et c'est aussi surtout Vincent qui a poussé le truc chez eux, qui est un peu le monsieur sécurité de N26, qui est une tronche, mais vraiment. Le mec, je pense que j'aimerais l'inviter. Je crois qu'il est à Berlin. Enfin, il travaille à Berlin. Mais peut-être en distanciel, on pourrait le faire si ça vous intéresse. Mais il a des trucs à raconter, mais jusqu'à. Mais toute la nuit, quoi. C'était vraiment incroyable. Et du coup, voilà. Et donc, grâce à cette équipe-là, grâce à notre déter aussi, on a réussi à coucher de ce truc. Et voilà. Pour les gens qui demandaient au niveau de tout ce qui est rediffusion, etc., il y a des diffusions en podcast. Donc, a priori, à partir de demain, vous devriez pouvoir retrouver l'entièreté de l'émission sur les Spotify, Apple Podcasts, etc. Et ensuite, il y a une chaîne YouTube que vous pouvez retrouver dans le chat si les modérateurs sont attaqués. Et vous pouvez vous abonner pour nous soutenir pour découvrir donc, des versions, des extraits du live. Quoi. Et puis voilà, c'est sans doute Hardis qui a fait la light du plateau.
Tout est de moi. C'est faut un... quand même le savoir.
Mais du coup, parce c'est un compliment.
Non, mais je t'ai laissé dire dans ta vidéo que t'avais quand même bossé sur l'émission et tout machin.
Ouais.
Bon, voilà, on peut dire aux gens quand même, c'est un peu moi, quoi.
C'est, voilà.
c'est
un peu moi aussi. C'est vrai que j'ai un
c'est,
peu.
C'était beaucoup
en
Sylvain.
En échange du câble management sous ton bureau.
C'était aussi beaucoup Sylvain. Ouais.
Je voulais pas la ramener, mais. Non, mais que les gens le sachent quand même. Que...
Les murs d'ailleurs qu'on a montés, c'était beaucoup.
La peinture.
La peinture aussi du studio.
C'est la première fois que je viens ici.
Écoute, mon cher Hardisk.
Oui.
Je pense qu'il est temps.
Oui. Alors, en gros, c'est une boîte qui fait de la collaboration pour l'audiovisuel. Donc, l'idée, c'est que tu vas uploader une V1 de ton montage vidéo et tu vas pouvoir envoyer un lien à d'autres gens. Ils vont pouvoir mettre des commentaires à un timecode précis. Mm-hmm. Donc, à un endroit précis de la vidéo, tu peux cliquer, genre à 1 minute 23 et t'as les retours de Michel, machin truc. Tu peux dessiner sur la vidéo en disant, tiens, bah, à cet endroit-là précis, là, l'intégration ne va pas parce qu'il y a ça, ça. Donc, c'est utilisé beaucoup en effets spéciaux et aussi en montage de vidéos YouTube classiques. Nous, on s'en sert sur la chaîne. Les monteurs avec qui je bosse, on est sur Frame.io et on fait des retours sur Frame.io parce que c'est beaucoup plus
pratique. Je pense que toi, t'en as jamais besoin parce que tu fais beaucoup tout seul.
Parce que mes retours, je les fais à moi-même.
Voilà, c'est moins utile. Tu peux prendre des notes. Ouais, sur ta propre ça. Vidéo. Mais genre, moins utile quand même.
Quand je voudrais me l'envoyer, tu vois, je pourrais faire ce petit truc tu vois, pour dire oh, j'ai reçu mes corrects.
J'ai une équipe.
Ouais, super.
Tu t'envoies une petite facture après.
C'est clair.
Mais voilà, c'est quand tu collabores, c'est vachement pratique.
Non, c'est vraiment un game changer.
Plutôt que de faire un bloc-notes, tu vois, c'est beaucoup plus simple.
Clairement.
Et donc, ils se sont dit on n'a pas encore complètement nickel game. Tu vois, il y a eu une réflexion à la base. Donc, ils ont sorti ce truc-là qui, en gros, amène cette collaboration qu'ils avaient dans tout ce qui est post-production, montage vidéo, etc. Donc, cet aspect très tech, pour le coup, et cloud de la collaboration, au tournage. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir brancher des boîtiers à ta perche son. Toi qui fais du cinéma, Monsieur Marvel, pouvoir mettre des boîtiers à sa perche son et à sa caméra. Des boîtiers qui sont assez connus dans le monde de l'audiovisuel, Teradek, pour ceux qui connaissent les marques, qui sont des boîtiers en gros qui servent à envoyer le flux de ta caméra et de ta perche directement vers un ordinateur. Et tu vas pouvoir uploader en cloud directement tout ce qui se passe. Ce qui fait que sur un tournage de gros blockbuster, comment ça se passe aujourd'hui? Ils tournent, ils ont à la limite des postes de montage à côté pour vite fait voir les images, corriger un peu ce qui se passe et vérifier. Mais il n'y a pas vraiment de workflow où les gens tournent et montent en même temps. Là, l'intérêt, surtout dans une période de Covid où il n'y a pas beaucoup de gens dans des bureaux au même endroit, c'est que tu peux avoir un tournage à Los Angeles, des monteurs indépendants à Londres, à Hong Kong et à Paris, qui tous travaillent en même temps, peuvent voir le tournage en live stream directement depuis le plateau, peuvent récupérer les rushs qui sont automatiquement uploadés et synchronisés avec le son dans le cloud pour commencer à faire une première version de montage de la scène.
C'est le fichier complet qui est envoyé en temps réel.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment c'est pas un proxy comme on dit.
Alors,
c'est une version plus légère d'une vidéo.
De mémoire, t'as les deux. Je pense que c'est configurable.
Ok.
Mais ça doit faire des
quantités de données.
Je pense que quand t'es Marvel, ouais, tu te dis pas « Oh, j'ai pas de modem 4G
oui, !» Je pense que ça va.
Le disque dur est plein.
Ce que t'envoies là, putain, ça doit être du 8K.
Ah bah, c'est des terras, c'est des terras de données.
Ouais. Ouais, d'accord.
Et en temps réel, du coup. C'est-à-dire que vraiment, c'est pendant le tournage.
Avec un delta d'upload. Mais le stream est en temps réel.
Et donc là, c'est, moi, juste si je prends un exemple, c'est comme si je tournais ma vidéo.
Ouais.
Là, dans le setup qui est juste derrière, qu'on voit un peu d'ailleurs, qui est derrière toi, Henri. C'est comme si je tourne ma vidéo là, hop, j'ai ma petite caméra, je filme et mon monteur, il peut être dans la, genre littéralement dans la pièce d'à côté
ou à l'autre bout du monde.
Ou à l'autre bout du monde. Il peut regarder le flux vidéo,
te donner des retours, parce qu'il y a aussi ce côté-là où dans une publicité, le client, tu vois, une pub pour Pizza Hut, t'as des gens de ces Pizza Hut Londres qui peuvent regarder le tournage qui se passe à l'autre bout du monde.
C'est donc un enfer. C'est vrai. Enfin, vous avez déjà bossé avec des clients.
Oui.
Vous
savez que le mieux, c'est quand le client n'est pas là.
Et cursed. Ces gens. C'est genre ce qu'il faut pas. Donc là, on leur laisse la possibilité, dans ce cadre-là, de faire leur retour pendant que vous êtes sur le tournage. Bon, tu me diras, ça évitera des reshootings quand t'as un client.
Mais ça évite qu'ils viennent lui-même.
Ça évite qu'ils viennent. Même si j'imagine que tu bosses avec des clients qu'on adore. Hein.
C'est vraiment sur cet aspect de production vidéo. Où le client, mettons, si tu bosses pour une pub, bah la personne a priori son mot à dire à chaque seconde, mais il y a cet aspect de liberté artistique qui fait que sur
un tournage, qu'on te laisse aussi réfléchir à un truc et pas toujours être interrompu. Quoi.
Donc là, il a peut-être pas besoin du coup d'être là en IRL.
Ben voilà. Et donc l'intérêt, c'est ça, c'est que tu vas pouvoir partager ce tournage en même temps à des gens qui sont pas là et en même temps faire une session de montage de telle sorte à ce que au début de ta journée de tournage, comme tu es en temps réel dans le cloud, tu peux à la fin de ta journée récupérer un montage de la première journée, un pré-montage que tu peux directement montrer aux équipes, aux clients, etc. Donc on va se retrouver dans un monde où les gens qui travaillent sur la production des films vont pouvoir être aux quatre coins du monde avec des connexions 4G, 5G, et d'où l'intérêt de la 5G, on en reparlera peut-être plus tard, pas forcément avoir à dégoter les bons jobs dans les bons studios, où c'est un bordel administratif avec les visas, etc. C'est l'aspect dont je parlais
c'est
un peu dans mon
live tweet. C'est quoi qui a changé pour que ce soit possible? Pourquoi ça n'existe pas depuis 10 ans?
La 5G et les connaissances technologiques, parce que c'est quand même très spécifique de savoir comment parler avec une caméra cinéma pour qu'elle synchronise le son et l'image.
Mais un truc,
c'est
truc,
très
truc,
spécifique quand même.
Hein. Question toute bête, hein, pour un normie de la vidéo que je suis. Okay. Une caméra, quand tu la branches genre à OBS ou un truc comme ça pour qu'elle enregistre, ça te fait un flux qui doit être colossal, quoi, qui passe par, bah, par exemple un Camlink ou un truc comme ça, ça passe par, c'est de l'USB du coup le type de
c'est
flux.
Directement dans ouais.
Tu envoies pas ton USB comme ça, c'est pas comme si tu envoies pas ton USB dans le
bah tu vois
sur
non
Internet,
dans,
tu vois.
Dans le cas d'OBS t'as un encodeur, que ce soit en live ou en enregistrement, tu as derrière une passe de réencodage de la vidéo pour sortir un fichier MP4 propre, H.264.
Et là du coup eux comment ils font pour envoyer leur
j'ai pas testé encore,
c'est pas
je sais pas
NDI
encore.
Ou
En gros, ma théorie, c'est que pour tout ce qui est streaming, il y a un réencodage côté Frame.io dans cloud. C'est comme si regarder un live Twitch, pour le coup. Le live Twitch n'a pas effectivement directement la data brute de ta caméra. Ouais, tu vois. Oui. Et pour tout ce qui est envoi des fichiers, c'est par contre, là, tu peux envoyer des proxys ou tu peux envoyer le fichier brut. Ça va te défoncer ta 5G, mais si t'es une grosse production, bah, tu prévois...
Oui, parce que bah, du coup, c'est quoi? J'avais entendu parler de NDI, du coup, qui a un rapport, ou pas du tout?
Alors NDI pour moi c'est un truc de live qui sert à faire passer de la vidéo par IP.
Exactement. Ça, je connais un peu.
C'est ça.
Ça, je connais pas énormément, je suis pas beaucoup servi.
Et c'est Risotto Show, du coup, de le stream qui m'a expliqué ça, un saint homme.
Qu'est-ce que c'est, du coup ?
Qui t'a bien montré les choses très intéressantes.
Qui m'a bien aidé.
Et qui, pour le coup.
Qui m'a bien aidé virtuellement à travers sa vidéo.
Et vous aviez jamais parlé d'ailleurs ?
Pas du tout. Non.
Bah, parlez-vous. Vous êtes tous les deux belles personnes, je vous entendez très bien.
C'est beau.
Entendrez très bien. Je vais essayer d'articuler. Mais ouais, NDI, c'est vrai que ça sert justement, notamment. Si je dis pas de conneries, donc Rizzo, si tu regardes, je suis désolé. Je vais essayer de pas massacrer.
On va faire remonter les bretelles.
Et d'envoyer, effectivement, du flux réseau sur IP, donc sur du réseau local. Et c'est vrai que c'est très pratique parce que tu t'affranchis de. Par exemple, si je dis pas de bêtises, quand tu streams avec un PC de stream, ceux qui ont deux streams, deux PC, pardon, je vais y arriver. Deux PC, donc tu joues sur ton PC. Et si tu as un autre PC pour avoir full performance ou être au mieux, tu peux envoyer du NDI à l'autre ordi qui va récupérer.
Ok, donc tu as ton PC qui a ton jeu vidéo où l'écran est enregistré. Et ça l'envoie par le réseau Ethernet.
C'est un protocole, quoi.
Je dis pas que c'est la meilleure solution, peut-être en termes d'optimisation.
Non, mais je l'ai vu aussi. Tu l'envoies en gros par ton réseau local à un autre PC qui peut faire l'émission.
Qui le récupère directement.
Alors que l'autre, le truc classique, ça aurait été de passer par une carte d'acquisition.
J'imagine que là, tu vas peut-être gagner en perf aussi, parce que.
Ça t'évite d'acheter du matos aussi. Hein. Non, je crois que c'est surtout ça le but, c'est que ça t'évite d'acheter une carte d'acquisition.
C'est aussi un rapport avec les plateaux qu'on va avoir plus que 4 caméras, quoi. Tu vois, genre quand t'as une console lumière connectée, plus les 26 cams, plus machin truc,
j'imagine c'est pas
on est sur des machins très très pro aussi. Quoi.
Parce que moi, du coup, ce que j'avais compris avec NDI, c'est que potentiellement, là, ici, on a littéralement des câbles HDMI qui font 10 mètres, d'accord ?
Oui,
on est
dans une goulotte colorée bois.
Voilà, je pense que c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Donc déjà, normalement, c'est un autre connecteur, mais du HDMI sur 10 mètres, c'est un peu chelou. Et donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, si je voulais connecter la caméra là-bas et avoir un plan très chelou où il y aurait ta tête principalement de derrière, on pourrait l'envoyer, je pourrais, avec ce PC, envoyer le flux vidéo via le réseau.
T'as pas un setup assez compliqué comme ça, toi ?
Écoute, c'est drôle. Laisse-moi
m'amuser. C'est un problème de dev. On peut en parler, ça,
on
dans une émission d'IT.
C'est genre, est-ce qu'on peut compliquer la chose ?
Grave, les devs, ils ont une vie simple. Ils font leurs courses, ça se passe bien, tu vois. Et ils se disent, je pourrais faire mes courses 1,4 secondes plus rapidement, tu vois. Donc, ils vont bosser combien de temps ? 6 mois, évidemment, pour faire les courses 1,4 secondes plus rapidement. Et après, ils sont pas contents. Il faut aller encore plus loin.
D'abord, il faut le faire fonctionner, il faut le réparer.
Voilà, c'est ça. Et puis, tu maintiens ta merde à jour et c'est. Mais c'est une maladie de dev,
écoute,
ça.
Écoute, c'est dur parce que c'est un peu vrai.
Mais c'est l'amour de la bidouille, en vrai.
Mais c'est l'amour de la bidouille. Et qui peut être parfois paradoxal, mais qui peut parfois te faire vraiment gagner du temps. Ouais.
Vrai, je voulais juste me moquer un petit peu de toi gratuitement. Bon, voilà.
C'est
super, c'est génial.
Alors, du coup, c'est parti de sa chronique.
Il l'a écrit. Mais du coup, là, visiblement, avec le NDI, on pourrait, par exemple, faire passer par. Alors que mon PC pourrait être à 1 km, quoi. Genre, si on a un bâtiment géant.
C'est. Et d'ailleurs, je crois que ça ne marche pas qu'en réseau local. Ouais. Si tu configures ça bien et que tu peux passer sur.
Bah, je crois que c'est justement l'intérêt de ton système. C'est que
très franchement,
coup,
je connais pas ce protocole.
En gros, c'est juste la façon dont la vidéo se balade sur le réseau. Tu vois. Il faut lui dire comment elle agit. Il ne faut pas qu'elle prenne 2 gigas par seconde. Et du coup, là, je crois que du NDI, ça va tenir sur 300 mégas par seconde ou un truc comme ça.
Je sais pas les détails. Ça doit, ça,
en fait, je crois que c'est moi qui ai pensé le plus le truc parce que je me suis maté.
Parle-nous des mégabits.
je me suis maté toutes les vidéos, le stream.
Mais c'est hyper intéressant, quoi.
Non, c'est grave intéressant. C'est vraiment passionnant comme domaine, quoi. On peut se dire, ouais, mais nous, on fait du dev, on ne fait pas de la vidéo, de l'audiovisuel et tout. Que nenni, il y a des technos incroyables dedans et très rigolotes.
Ouais.
C'est un argument qui se suffit à lui-même.
Très, très beau.
Et donc, on a complètement divagué de ta.
Non, mais c'était hyper intéressant. De toute façon, c'est complètement lié. Et non, en gros, je m'interrogeais un peu sur qu'est-ce que ça allait changer dans le milieu. Parce qu'évidemment, l'image tout de suite, c'est les gros acteurs, donc les grosses pubs, les grosses productions hollywoodiennes qui vont radicalement pouvoir changer leur façon de travailler. Mais même pour les gens qui bossent sur ces films, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, si toi, ton rêve, c'est de bosser sur du Star Wars, sur des trucs comme ça en tant que monteur, effets spéciaux, etc., aujourd'hui, il faut que tu te fasses les bons contacts pendant très longtemps, que tu postules à ces boîtes-là qui sont souvent pas en France. Donc, le temps d'avoir un visa, que la boîte veuille bien te le filer, ça leur coûte du pognon aussi d'importer des mecs avec des visas et tout, c'est un bordel. Là, tu peux imaginer un gars dans la Creuse avec un MacBook Pro. qui peut bosser sur ces productions-là en étant auto-entrepreneur. On est quand même dans un délire. Et ça peut donner des opportunités nouvelles à des jeunes qui sont dans ce milieu-là, et c'est super cool.
C'est une question qui va, tu vas peut-être trouver un peu bête, mais il y a Black Plasma qui demande c'était un autre épisode, je me suis trompé, mais qui demande est-ce que c'est pas pareil qu'un TeamViewer, tu vois. Techniquement, t'envoies une vidéo à distance.
Le rapport est pas con parce que l'usage est le même, techniquement. Ouais. Tu veux voir une session de travail ailleurs. La différence, c'est que là, ça se passe sur du matériel audiovisuel directement. Il n'y a pas d'ordinateur qui s'occupe de faire du streaming. C'est un petit boîtier de transmission vidéo qui s'appelle un Teradek, qui est branché sur la caméra et qui va parler via l'application iPhone synchronisée et qui va parler directement au cloud de Frame.io. Et il y a aussi toute cette notion d'upload des rushs directement dans leur cloud pour qu'ils puissent être synchronisés et téléchargés. Et c'est là où on diffère d'un TeamViewer, parce que TeamViewer, c'est la prise de contrôle d'un PC ou d'un appareil mobile.
Et puis surtout, je pense que tu ne dois pas avoir les mêmes besoins en qualité.
Et puis même, tu ne peux pas installer TeamViewer sur une RAID. Mais
même si on parle d'un point de vue purement technique sur le protocole, pour envoyer une vidéo avec presque pas de latence et en qualité.
C'est pas les mêmes usages.
Ouais. Oui, c'est ton TeamViewer tout pixelisé qui te dit merci pour l'offre d'essai à la fin. Voilà.
Tout ça parce que tu voulais faire un bot de fiches sur Dofus à distance.
Et du coup, ça va s'intégrer, tu penses, avec les. Moi, il y a un autre sujet dont tu avais parlé, peut-être ça n'a aucun rapport. Mais je me demande si c'est pas des technologies qui sont vues de la même façon par les nouvelles productions, de type ce qui se passe chez Le Mandalorian, par exemple. T'en avais fait une vidéo de ça.
Ouais. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. On se rend pas compte à quel point ça va changer le monde. C'est un délire. Tu fais référence aux écrans de LED.
Réexplique-nous peut-être.
Ce qui a été utilisé dans The Mandalorian, qui est une série Disney Plus sur The Mandalorian de Star Wars, c'est une technologie qui va te permettre de construire une partie de ton décor dont un dôme fait d'écran LED, un dôme arrondi comme ça, qui est à 360 degrés. Et sur cet écran LED, on va pouvoir utiliser des images qui sont générées par un moteur de jeu vidéo en temps réel qui s'appelle Unreal Engine, très connu notamment pour Fortnite, etc. C'est un des moteurs de jeu les plus connus au monde. En gros, ces moteurs de jeu aujourd'hui, avec notamment le ray tracing, sont tellement performants, te donnent une qualité d'image telle qu'en fait, pour générer des images de fond, de décors de films, on peut s'en servir. Ce qui fait qu'il te suffit, toi, derrière, de construire la moitié de ton décor en réel. L'autre partie est faite d'un modèle 3D qui est directement rendu avec Unreal Engine. Et tu peux tourner. Bah voilà, on le voit ici, tu vois, le sol a été vraiment construit. Ils ont vraiment mis du sable, machin. Et derrière, c'est un décor complètement virtuel. Ce qui est incroyable parce que tu peux changer ton décor en temps réel.
Surtout au niveau des coûts, ça doit être un...
Au niveau des coûts, ça n'a rien à voir. Tu n'as plus besoin de voyager avec une équipe. Tu n'as plus besoin de... Voilà. Et toute cette technologie est fonctionne sur deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a notamment, il faut le dire, quand même grâce à Nvidia, qui ont bougé les portes. C'est pas une expression, c'est pas grave. qui ont permis d'avoir de plus en plus de puissance pour avoir justement du ray tracing et des images phénoménales en temps réel. Et derrière aussi les technologies d'écran LED, qui c'est pas une technologie des plus passionnantes, mais ça bouge quand même assez vite, qui permettent d'envoyer assez de lumière.
Il paraît que c'est utilisé
pour
ça,
qu'on ait l'impression que ce soit réel, quoi. Ouais.
Il paraît que la technologie est utilisée dans le dernier clip de Mr. V.
Oui, j'ai entendu dire ça.
Dans Vettel.
Absolument, il y a des salles à Paris qui sont en train de se construire. Il est possible qu'on prépare quelque chose là-dessus. YouTube.com, ça sert d'ici, abonnez-vous.
Tu as le droit.
Mais il y a des salles à Paris que tu peux louer, qui commencent. On est encore un peu au début de ça en France, mais ça arrive.
Trop stylé.
C'est vraiment une techno tellement canon, je trouve. Enfin,
de ouf.
Ce qui est dingue, c'est quand même qu'on a.
Ça veut dire ta régie est hyper réactive.
Tu as vu, c'est assez impressionnant.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Et
ce que je trouve le plus fou, c'est que. Alors que ce n'était pas forcément prévu, que peut-être personne n'a été assez visionnaire pour le penser il y a quelques années, mais tu as l'industrie du cinéma et l'industrie du jeu vidéo qui font
sont en train
merge.
De merger.
Mais c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que sans vraiment le savoir, ils ont, notamment les jeux vidéo, ont pavé la route pour le cinéma, en fait. Et on se retrouve maintenant où... le Unreal Engine permet de faire des images tellement qualitatives
de ouf.
C'est ça.
Qu'on peut littéralement s'en servir pour remplacer un décor.
Ouais, mais c'est assez délirant.
C'était un peu le truc d'Epic Games. Alors en plus, moi, j'ai fait une très grosse vidéo du coup sur Epic Games, et pas comme étant un fanboy, parce qu'en plus j'ai découvert Unreal après ça, et là je m'y suis intéressé beaucoup plus, et je l'ai utilisé aussi pas
donc
mal.
Donc tu fais des vidéos Fortnite, c'est ça?
Exactement.
Gros,
hein.
Vous êtes Michou?
Top 1 tout le temps. Les V-Bucks.
Et, ça V-Bucks un max par ici.
Et ouais, non, ce qui est fascinant, c'est que en plus, tu vois, tout Unreal Engine, ça peut paraître une grosse barrière, mais c'est quand même assez accessible.
Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que c'est, en fait, déjà Unreal Engine? Est-ce que c'est un moteur?
C'est un moteur de jeu vidéo où vraiment tu ouvres le truc, tu as un carré de 4 mètres par 4 mètres et c'est ton jeu. Il n'y a rien dessus. C'est en 3D, ça fonctionne, mais tu fais ce que tu veux dessus. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire un jeu. Et là, en l'occurrence, on fait de moins en moins de jeux et de plus en plus de films avec, ou moins de décors de films. Mais c'est vrai que c'est assez accessible. Maintenant, avec les technos qu'on a sur les Nvidia, bah, effectivement, quand tu as une RTX, tu vas pouvoir avoir ton ray tracing qui va plutôt bien marcher. Après, voilà, faut l'optimisation forcément. Mais de chez vous, si vous avez une bonne machine déjà, vous pouvez vous amuser.
Vous pouvez installer une Unreal Engine.
Vous pouvez l'installer.
C'est terrifiant à quel point c'est facile à prendre en main.
Ouais.
Alors, évidemment, faire des trucs compliqués, vous me donnez envie. Ça reste dur, tu vois. Mais juste le prendre en main, ajouter quelques éléments 3D basiques et faire mumuse, c'est extrêmement simple.
Ouais, après, voilà, c'est un peu la règle du. C'est très simple au début, puis après, t'as une courbe de progression qui est beaucoup moindre.
C'est un peu comme League of Legends, quoi. C'est-à-dire que c'est. Non, mais en vrai, tu vois.
Ça se tient.
Mais est-ce que, comme dit Claude P, est-ce que c'est un modeler? Est-ce que c'est un truc qui est fait pour créer de. Est-ce qu'on peut le comparer à Blender ou à des logiciels qui sont vraiment faits pour créer des objets 3D?
Non, ces logiciels vont bosser ensemble, en vrai. Tu vois, moi, je suis une bille en 3D, mais intersidérale. Ouais. Les logiciels de 3D me font peur, globalement, parce que c'est trop compliqué dans ma tête.
En ouvrant, je suis effrayé.
Ah ouais, mais Blender, je l'ai ouvert parce qu'il fallait que je convertisse des formats, tu vois. C'était, ça s'arrêtait là, quoi. J'avais des fichiers Blender, j'ai transformé.
J'avais fait un tuto cinéma 4D dans ma jeunesse.
J'ai mal déjà.
Là, c'était sympa.
Attends, que tu as enregistré?
Non.
J'ai cru qu'il y avait un DOS là. On pouvait aller le chat.
Le mi-code de 2011 là.
Bonjour. Pas du tout. Voici cinéma 4D.
J'ai tenté de comprendre un tuto. C'est beaucoup moins valorisant là, du coup, mais.
Et sur Unreal, du coup, pour revenir un peu dessus, tu vas pouvoir faire effectivement ce que tu veux. Et le truc, c'est que c'est gratuit. Il n'y a pas de licence, à moins que tu sortes un jeu qui génère 1 million, je crois, par an. Donc, il y a un peu de marge normalement. Oui. En tout cas, pour.
C'est quoi leur modèle économique? C'est qu'ils te prennent des.
C'est un pourcentage. Mais quand même assez large. Je crois que c'était 100 000 avant et maintenant 1 million.
Tu sais, je me suis toujours demandé comment ils font pour l'appliquer, ça.
Je sais pas du tout.
C'est-à-dire que si je mets mon jeu sur Steam, qui sait que c'est fait avec Unreal, tu vois?
Bonne question. Je me demande
en
si.
Vrai,
je
y a
me
pas de.
Si je pense honnêtement
aussi.
C'est possible que ce soit le cas, et surtout le cap est suffisamment élevé, 1 million,
pour que tu
peux pas ne passer inaperçu, tu vois. T'as forcément une société, un endroit où tu le discloses. Ouais. T'as forcément un siège. C'est con, hein, mais tu fais pas 1 million de ventes en existant nulle part, quoi.
Bah après, t'as des trucs qui vont très vite aussi, tu vois. Ça peut être. Oui, mais effectivement, ça va générer.
C'est vrai
qu'il y a
des Among Us où c'est une toute petite boîte et où tout
oui,
d'un coup.
Mais tu vois, normalement, t'en
oui, mais quand ils font les 1 million, tu peux avoir l'avocat qui toque à la porte sans trop de problèmes, tu vois.
Ouais. Mais du coup, comment ils savent que c'est Unreal Engine? C'est ma question, tu vois.
Ah oui.
Mais je pense en vrai, tu vois, sur Steam, tu dois peut-être avoir.
Peut-être.
Quand tu publies un truc, tu sais que le.
Si vous savez, écoutez, si quelqu'un sait sur le chat, n'hésitez pas.
Si les avocats d'Epic Games peuvent partir de chez Apple juste 5 minutes pour nous donner les infos.
Et la vidéo qui est en train de passer, je vous conseille d'aller la mater.
Elle est incroyable.
C'est sur. Je crois que c'est sur la version Unreal 5. Ouais. C'est une preview et c'est lunaire, c'est. Les vêtements bougent en réactif, vraiment, quand tu grimpes, etc. etc. Elle est vraiment incroyable. Vous regardez ça sur un bon écran si vous avez une résolution plus haute que 1080p. C'est lunaire.
Moi, ce qui m'a rendu fou dans ce trailer qu'on regarde, là, c'est la transition entre les animations.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vois, entre une animation de course et une animation où elle grimpe.
Regarde, là, tu vois, elle qui.
Elle va intelligemment transitionner entre les phases d'animation et c'est parfait, en fait. C'est incroyable.
Ouais, ouais. Non, il y a du très, très beau boulot et tu comprends complètement pourquoi le cinéma s'intéresse à ça quand tu vois ça parce que t'as pas l'impression de regarder un jeu.
Personne n'est d'accord. Il y a du token d'API, il y a du en fait à une licence.
Ah ouais? Ah bah c'est là pour le coup, j'ai pas l'info, mais sur justement, si vous avez des infos sur le.
T'imagines, en fait, c'est un truc stupide, genre il y a un bruit blanc. Genre t'as une voix infrarouge.
Audio jungle.
Il y a que ton chien qui l'entend et ça fait Unreal Engine. Paye, enfoiré.
Ouais. En vrai, je me dis que ça nous donne quand même une transition toute parfaite. Pour c'est pas une chronique parce que c'est pas préparé du tout, mais c'est concrètement ce qui t'occupe depuis quand même des semaines.
On a
eu des teasings sur Twitter de ce que t'étais en train de faire.
Je fais du teasing gentil.
Oui, on a eu des teasings sur Twitter de ce que t'étais en train de faire il y a quelques temps. On va vous passer un petit trailer qui nous a fait hier soir.
Il y a très peu d'images.
Avec beaucoup d'amour. Et on va vous l'envoyer maintenant.
Écoute son oreillette invisible.
Incroyable.
C'est beau.
C'est sûr, ça va bugger. C'est sûr, ça va bugger.
Pourquoi c'est sûr que ça va bugger? Explique-nous un peu, au moins dans les grandes lignes.
Dans les grandes lignes.
J'ai dû me battre, honnêtement, pour
physiquement
vous
ou pas
donner un petit peu. Non, pas physiquement.
On s'est battu sur Discord.
J'ai dû me battre sur Discord pour qu'il puisse nous expliquer, parce que moi j'ai vu plus d'images.
C'est vrai.
J'ai vu plus d'images et je sais déjà à quel point ça va être extrêmement stylé.
Merci.
T'as vu, je te hype et ça va te mettre, mec, une pression.
J'espère qu'on n'est pas vraiment en
mais sur quoi, tu bosses? Explique-nous le concept révolutionnaire.
Alors, oui, révolutionnaire, je sais pas, mais...
Si, c'est révolutionnaire.
Ok, c'est révolutionnaire. c'est toi qui l'as dit.
Ouais, c'est moi qui l'ai dit.
Ça va.
C'est bon, c'est bon.
Non, en gros, j'ai bossé pas mal sur Unreal Engine ces derniers mois, en gros, notamment pour faire les illustrations. Premièrement, c'est de là que je suis venu un peu sur Unreal. Les illustrations de ma dernière vidéo sur AOL, où en gros, voilà, il y a des plans 3D assez cool. Et je me suis dit, c'est vachement pratique, en fait, déjà, ne serait-ce que pour illustrer des vidéos. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'interagir avec Twitch, de faire des trucs un petit peu plus interactifs? Et en fait, on peut complètement en faire. Et du coup, d'ailleurs, je sais pas, je crois qu'il y a les images en régie d'une streameuse qui s'appelle Code Miko, qui est assez connue.
Que j'ai découvert grâce à toi.
Ouais, bah, j'ai découvert en recherchant, mais c'est vraiment fascinant.
C'est incroyable. On pourra revenir un peu sur ce qu'elle fait.
Ouais, et en gros, elle a un décor 3D, voilà, mais elle est carrément dans le jeu. Je pense que 99% que c'est fait avec Unreal Engine. Et elle a son personnage en 3D. Et des cas, mais c'est un vrai stream, sauf que c'est un peu comme les VTubers, tu vois, comme on les appelle, mais en stream.
Mais là
temps
tu,
réel.
Moi, tu dis ça comme c'était un truc que tout le monde connaît, mais moi, je ne savais même pas que ça existait, ce terme VTuber. Tu vois.
Ah oui, bah alors ça, les
ça se connaît bien. Non, mais ça se trouve, je suis un pur inculte. Hein,
non, c'est un truc c'est mainstream. C'est du sombre internet.
Ouais, ouais,
c'est du internet brosson.
Je connais moins ça, mais en gros, je sais pas si vous voulez montrer les images en régie de Code Miko.
On va envoyer.
Mais en gros, voilà, c'est un plateau de stream en 3D qu'elle a fait et sur lequel elle peut interagir. Les gens peuvent interagir avec les commandes, les bits, etc.
Donc c'est pas, on voit pas sa tête.
On ne voit pas sa tête, sauf quand parfois elle fait des streams où elle se montre, mais elle est vraiment un personnage 3D. Et c'est ça qui est fascinant. Et moi, du coup, je me suis dit, je n'ai pas de mocap, enfin de costume de motion capture. J'ai pas de
parce qu'elle, elle est obligée, du coup, pour pouvoir recréer ce personnage virtuel qui reproduit tous ses mouvements, ses expressions faciales et tout. Il faut du matos, quoi.
Quand elle est en stream, ouais, elle a une tenue de mocap, elle a un truc qui capture ses émotions du visage, elle a... c'est un bordel. Hein.
C'est un bordel, ça coûte de la thune aussi, parce que les trucs de motion capture, bah, c'est pas donné.
Ouais.
Et quoi que ça se démocratise d'ailleurs un petit peu, c'est dans les temps, il y a des modèles
moins chers.
C'est
quelques milliers d'euros à peu près. Quoi.
Ouais, mais je sais qu'elle a du bon matos en plus.
Ouais.
Et là, je me suis dit, bon, bah, essayons plutôt d'intégrer une cam avec un fond vert et voir ce que ça fait. Et du coup, là, le concept de ce... Alors, c'est pas un concept, c'est plus un proof of concept de ce truc, parce que j'ai pas de contenu spécialement derrière, si ce n'est...
En fait, ce que tout le monde fait avant de se lancer sur Twitch, c'est faire des scènes.
C'est ça. C'est comme si j'avais
tout le monde ouvre son logiciel et fait des scènes. Voilà,
le stream commence bientôt.
Voilà, où je suis à côté du chat, ou alors, mon jeu vidéo, etc. Toi, au lieu de faire des scènes, tu fais un jeu vidéo où il y a des scènes virtuelles entre lesquelles tu peux... te balader, mais au lieu que là vous avez vu, il y a des petites transitions entre les scènes, il y a un fade ou voilà, il y a un truc qui bouge. Vu que toi dans ton cas c'est dans un environnement 3D, tu peux créer une caméra qui va se déplacer et qui va faire des effets de dingue, quoi.
C'est ça. En fait, tu contrôles tout en fait à partir d'Unreal. Et tu vas pas forcément être, tu vois, toi tu vas bosser tes scènes sur ton OBS, ou ton Streamlabs OBS, chacun utilise ce qu'il veut, mais c'est grosso modo les mêmes choses. Moi, mon OBS va me servir surtout à streamer essentiellement, à la limite recevoir une ou deux alertes, mais sinon tout le reste va se faire directement dans mon jeu que j'ai créé, et qui va récupérer ma caméra, qui va récupérer mon chat, qui va récupérer toutes
donc
les alertes.
Donc en fait, là où c'est ton cas et c'est mon cas, c'est le cas de tous les gens qui stream, si on regarde notre OBS, il y a plein de scènes, il y a plein de choses. C'est ça, quoi, t'as toutes tes scènes, tu peux transitionner tes trucs. Toi, t'as un seul truc en fait, c'est juste t'as l'enregistrement de ton jeu.
Exactement.
Et c'est tout.
Ouais. Ouais,
c'est juste OBS est un encodeur.
Voilà, c'est ça. OBS sert juste à prendre le jeu et l'envoyer sur Twitch.
Bah, c'est ouais, comme si tu streamais en fait ton jeu, quoi. Tu vois, pourrais limite Overwatch, tu ouais, c'est Overwatch, quoi. Tu vois, c'est juste que je stream ça en
l'occurrence. Sauf que en plus là, tu te mets toi-même dans le jeu.
Ouais. Et j'ai un petit panneau de contrôle qu'on voit pas forcément dans le stream, mais avec des boutons dans tous les sens pour définir un peu les actions, pour faire ma petite régie, quoi, en fait. Donc t'as des cams, t'as des panneaux, t'as des transitions, des trucs comme ça.
C'est ça, franchement, ça m'a l'air vraiment vraiment stylé.
Ben merci. Ça va être vraiment un live crash test. En vrai, je sais pas. J'espère que ça va tenir, mais je me rends pas compte. J'ai pas fait de test à une ampleur où bah déjà le logiciel, tu vois, reçoit les messages du chat, donc il faut qu'il les processe.
Mais surtout pour qu'on puisse bien comprendre l'étendue des possibilités qui s'ouvrent. C'est pas juste, ce qui est marrant, c'est pas juste de te mettre à l'intérieur d'un jeu vidéo que t'as toi-même créé et où on te voit en live et où il y a le chat. C'est pas ça. C'est que tu peux derrière, à l'intérieur de cet environnement que tu contrôles de A à Z, tu peux faire ce que tu veux.
Ouais, bah tu peux interagir.
Et par exemple, tu peux lier ton jeu vidéo à, bah, je sais pas, à Twitch par exemple.
Ouais.
Pour regarder s'il y a des subs ou s'il y a des trucs comme ça.
Exactement. Alors après, c'est du bricolage. Il faut aimer ça, hein, mais c'est l'idée, ouais. De, en fait, là où tes events OBS par exemple que tu as récupéré sur OBS, bah tu vas pouvoir les traiter d'une façon, donc tu vas te dire tiens, avec Streamlabs, s'il y a une alerte de don, bah je vais afficher un truc de don. Mm. Bah là, moi, si j'ai une alerte de don, je vais aller la récupérer dans mon jeu, et ensuite bah si je veux péter un mur, je pète un mur.
J'ai une vraie question par rapport à ça. C'est, est-ce que toi t'as programmé à l'intérieur des garde-fous au cas où le truc marche très très bien? Tu vois, je dis un exemple à la con, mais si t'as une commande qui trigger un système de particules où il y a un cadeau qui tombe du ciel dès qu'il y a un sub. Bon, s'il y a genre un sub-gif de 300 subs, est-ce que ton CPU explose? Est-ce que t'as des, comme ça, des garde-fous quand même pour être sûr que ton stream... Est-ce que la priorité, c'est que ton stream soit stable, ou est-ce que tu t'autorises toi-même à planter et au pire à relancer un machin truc ou...
En vrai, le plantage, je pense qu'il y en aura en vrai, hein, parce que quand je dis, je l'ai pas testé à la longue.
Ça peut être vite instable en fait. Il y a beaucoup de gens... Si vous êtes des milliers à aller sur twitch.tv sur Sifkin,
venez faire planter le stream.
venez planter l'ordi à
mais ouais, sachant qu'en plus tout ça est fait sur un seul ordi, j'ai pas d'ordi de stream à côté, j'essaie vraiment d'optimiser pour voir si on peut déjà faire ça. Et après, ouais, c'est des techniques, c'est des systèmes de vérifier les cooldowns, de voir si t'as le droit d'appeler plusieurs éléments en même temps. Tu vois, par exemple, un truc qui va changer mon bureau, là on a perçu un petit.
J'ai une proposition pour vous passer un petit extrait pour que vous voyez vraiment plus concrètement, vous le demandez et c'est bien compréhensible. On va se passer un petit extrait pour voir un peu comment se passe un live de ce genre, parce que ça fait très abstrait comme ça.
Ouais, c'est dur en fait. Le truc, c'est que je voulais pas trop en dévoiler avant. Voilà, et puis je me suis dit, c'est quand même.
Heureusement qu'il y a l'exemple du coup de code Miko où on va quand même pouvoir voir, c'est pas exactement ce qu'a fait Sylvain, mais c'est quand même extrêmement stylé et on peut envoyer ça.
What's your best tactic? Getting gift subs.
Voilà, donc là,
on peut voir que sur ses vêtements, il y a les messages du chat, les émotes qui passent.
Et alors là, t'as une scène où en fait, elle est devant l'ordi, virtuel, où derrière, elle met son propre ordi.
Exactement. Et donc voilà, tu vois, il y a deux éléments principaux en termes d'interaction. C'est son personnage qui est contrôlé, et à côté, la capture de son Discord, tu vois. Et ensuite...
si je peux me permettre, sur son haut, il y a des.
Des emotes du chat.
Ouais.
Et, c'est incroyable.
Je me demande si c'est même pas des messages, parce qu'il y en a qui essaient de dessiner des dessins, bien sûr, parce qu'on est sur Twitch. mais avec des parenthèses, ils sont très créatifs. Hein. Mm. Attention, je dénigre pas leur travail. Hein.
En vrai, c'est mais, Nico, si tu veux envoyer l'autre qu'on voyait tout à l'heure, n'hésite pas à en revoir d'autres, parce que t'as plein d'interactions différentes qui sont vraiment surprenantes.
Ouais, par exemple, tu vois, là, elle a repris aussi un peu des codes du jeu vidéo, où par exemple, son personnage, tu peux lui faire avoir une grosse tête, tu vois, comme sur les jeux PS1, où t'avais un cheat code qui te permettait de faire ça. Bah, je sais pas, tu vois, c'est 300 bits, et elle a une tête énorme, mais tout continue, le live continue.
Incroyable.
C'est très drôle.
Ça va mourir de rire, ça doit.
Et d'ailleurs, elle est... Voilà, bah, en plus, là, on voit un peu comment ça se passe. C'est vraiment impressionnant... Techniquement, c'est
moi, ce que je trouve impressionnant avec elle, c'est la façon dont elle a réussi à intégrer avec sa communauté la vraie elle et la fausse elle.
Ouais.
Tu vois, elle a pas juste pris son personnage. Et là, parfois, tu vois, ce qu'elle est en train de faire, là, je crois que j'avais déjà vu ce moment de son live, elle est en train juste de mettre en pause, vite fait, sa scène, en mode, attends, on va changer un élément, machin. Et donc, tu la vois dans son pyjama de mocap, tu vois, en train de faire, est-ce qu'on met ça ou est-ce qu'on met ça et tout. Et c'est vraiment gaulerie, l'espèce de lien entre les deux, quoi.
Question, ouais. Mais alors là, du coup, ce qui est fort, c'est que.
Elle parle avec Jésus là.
Elle parle avec Jésus, mais il lui voit sa version virtuelle, bien sûr.
Ah, je sais pas.
Je sais pas s'il a un retour.
Ah ouais. Je sais pas s'il a un retour. Je pense pas qu'il y ait de cam forcément. Je pense que quand t'as un déjà un setup comme ça, t'as pas envie d'en rajouter.
Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. Moi, c'est que dans Zoom, là, je pense qu'elle est. Ouais, j'ai l'impression qu'elle était sur Zoom. Elle envoie le flux OBS, je pense.
Je sais pas.
Parce que j'ai vu, moi j'ai vu un extrait où, je sais pas, elle faisait un genre de faux date avec un mec sur
Twitch. Oui, elle a lancé un concept d'émission de date, je l'ai pas vu encore.
Ouais. Mais du coup, le gars, il est hyper décontenancé parce qu'il pensait parler à une vraie fille et il se retrouve avec une personne virtuelle. Donc, du coup, ça laisse supposer qu'il le voit vraiment comme ça. Ah, il la voit vraiment comme ça.
J'avoue. Et ce qu'elle a fait aussi en plus, mais en tout cas, je vous conseille d'aller voir les replays au moins de ses streams parce qu'il y a
hyper intéressant.
Soit la technique, effectivement, où tu peux juste voir comment ça fonctionne, ou alors aller voir dans vraiment les coulisses, elle montre, voilà, elle explique un peu.
Il y a Superflame qui nous dit qu'il tuerait pour pouvoir faire ça en imitant des voix.
Ah bah là, oui, t'aurais un terrain.
Ça veut dire faire un modèle 3D par imitation, le bordel.
Ouais, ou avoir beaucoup d'argent pour les acheter. Mais...
ouais, c'est vrai. Mais ça veut dire que une fois que ton setup il est fait, etc., et que t'as ton architecture, changer juste le modèle de la personne 3D, c'est pas si compliqué.
Un Jean-Pierre Pernaut en 3D, tu le trouves où? C'est ça le truc. C'est ça le bordel.
Après, il fait aussi des Homer Simpson, tu vois, qui sont un peu plus simples.
Oui, voilà, tu pourras faire Homer Simpson assez facilement. C'est vrai. Je pense super flamme.
Moyennant le matériel, du coup, qui est un kit de motion capture, ouais. Qui coûte, vous avez dit, quelques milliers d'euros.
2-3 000 euros. Ouais.
Voilà. T'en as des plus accessibles.
Et une RTX un peu.
Et toutes les RTX de France. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de RTX, c'est à cause d'elle. Hein. Concrètement.
Pas du Bitcoin.
C'est vrai, je dis ça comme si ça existait encore des cartes graphiques en ce bas monde.
Ça existe autant que les restaurants.
Ouais, ouais, là on est.
Et ouais, Billy.
J'y sais, je dis rien.
Mais ouais, et puis en plus elle est allée plus loin, elle a fait vraiment, elle peut contrôler son personnage ensuite comme un joueur, genre vraiment elle peut aller se balader dans tout son salon, son truc, machin. Ouais.
Apparemment, ses associés et le boss d'un studio d'animation qui pourra lui faire ses modèles 3D.
Ah.
Et ben voilà.
Elle a aussi une pierre chasse selfie qu'on n'a pas vue, mais c'est très drôle.
Ah, peut-être, oui.
Ou en gros, tu vois dans son stream le point de vue d'une fausse perche à selfie, comme ça, tu vois. Et en fait, t'as un mouvement de cam hyper réaliste, hyper, j'ai pas les mots, tu vois, mais...
C'est vraiment stylé.
C'est rigolo.
Ah ouais, non, c'est... Mais elle marche très très bien en plus, parce que forcément le concept est super intriguant, et qu'en plus elle fait des streams super longs, elle reçoit du monde, enfin...
Et il y a du contenu intéressant, c'est pas juste un concept rigolo 20 minutes, c'est vraiment... Ouais. Elle fait du bon contenu.
Voilà, tu viens de définir ce que je vais tester sur mon stream, c'est un concept rigolo 20 minutes, parce que je n'ai pas encore de contenu autour de ça.
T'as vraiment bossé sur une tech.
Ouais, c'est ça. Je me suis amusé, je me suis dit, bon, il va falloir que je le montre.
Juste d'un point de vue purement technique, parce que c'est aussi l'avantage de cette émission, c'est qu'on on est autorisé, tout en vulgarisant un maximum, on est autorisé à rentrer dans des petits détails, etc. Mm-hmm. Comment ça marche? Comment ton jeu vidéo est au courant de, par exemple, peut récupérer le flux vidéo? Comment il peut savoir quand il y a un nouvel abonné? Comment ça se passe, ça, tu vois?
C'est se plonger dans les blueprints d'Unreal, qui est en gros un système de nodal, si vous connaissez.
C'est du no-code, en vrai.
En fait, c'est...
Toi, pour ton truc, t'as pas écrit une seule ligne de code, là?
Quasiment pas. Non, ouais. En vrai, à part pour vraiment réparer des trucs, des plugins qui étaient mal branlés ou autres, mais... par exemple, moi j'avais commencé à faire du nodal, donc je sais pas si tout le monde voit ce qu'est le nodal. Moi j'ai appris un peu ce terme récemment, mais vraiment c'est ces petits blocs qui sont une fonction, mais que t'as pas à éditer et qui sont un peu clés en main. Et ensuite tu suis avec une sorte de fil d'Ariane le déroulé de ton code. Donc t'as un événement qui va être à la construction de ton jeu. Tu vas lui dire il faut qu'il charge l'interface. Donc là tu vas mettre ton bloc d'interface. Il va falloir qu'il connecte ta Twitch.
Et tu peux, avec ça, avoir un résultat aussi, entre guillemets, poussé que toi, ce que tu as là. Avec des intégrations de services comme de Twitch ou de multimédia, vidéo, et tout ça.
Après, c'est...
C'est dingue.
C'est aller voir un petit peu par-ci, par-là, comment tu chopes, effectivement, du Twitch, comment tu chopes tout
j'ai
ça.
J'ai pas envie de voir ton autre tri.
Non, c'est un bordel. et après, voilà.
Mais honnêtement, je suis assez fasciné que t'aies eu à peine à dev, quoi. Parce que c'est aussi, c'est sympa pour les...
Ça, c'est
pour les gens qui nous regardent et qui sont pas développeurs, il y en a plein. Et...
Ça, je trouve ça fascinant. Moi, j'avais commencé
Que tu peux commencer à faire des trucs vraiment stylés.
Ouais. Et le nodal, là, moi, je faisais des filtres un peu Instagram aussi avant. Ouais. Et c'était ce système que tu avais sur Spark Air. Bah voilà, c'est cette magnifique chose. Merci la régie réactive. Mais là, tu vois, par exemple, tu as une condition, il va vérifier ton booléen, il va continuer ensuite et il va te faire ton petit truc, quoi. Mais il dit, voilà, si tu as un message dans le chat, tu fais telle animation, des trucs comme ça. C'est pas si simple, évidemment, il y a plein de problèmes au milieu, mais en tout cas, c'est l'idée, et c'est fascinant, c'est fascinant à faire, en tout cas. Moi, ça m'a absorbé mon temps libre, et c'est pour ça que maintenant, je sors ce truc.
En fait, t'as appris un nouveau métier complet. ça qui est délirant.
Ouais, alors, t'avais commencé un peu avant quand même, parce que tu parlais de tes stories Instagram. Elles ont bien marché, je pense, parce que vraiment, je les ai vues sans même te les avoir demandé, etc. Mais je les ai vues à beaucoup d'endroits.
Il y a eu des filtres qui avaient bien marché. Ouais, bah, en plus, c'est une viralité tellement bizarre, Instagram. C'est, ouais. Il suffit qu'un gros mec utilise un filtre.
Alors, comment explique, c'était des filtres que tu pouvais. Parce que les gens, ils connaissent les filtres Snapchat, Instagram. Enfin, moi, je connaissais ça, tu vois. Mais en gros, là, tu peux toi-même en créer, c'est ça ?
Ouais, bah, tout le monde peut créer son filtre Instagram. Et c'est pour ça aussi que maintenant, il y en a de plus en plus. Enfin, ouais. Juste des fans, des gens, voilà, des créateurs. Et moi, j'avais fait 2-3 conneries. Donc, tu avais un filtre Who's That Pokémon qui est bien tourné, tu vois. Et tu avais ta tête à la place.
Moi, je me souviens d'un filtre que tu as fait où c'était pour les placements de produits des influenceurs.
C'était incroyable.
C'était à mourir de rire.
C'était à l'époque où j'étais cynique.
Oh, yes, tu l'as !
Il y a énormément d'influenceurs. Un petit peu tête en l'air sur Instagram. J'ai fait ce filtre. Voilà, comme ça, vous n'oublierez plus
trop cynique, ça.
De dire que vos stories sont sponsors.
J'adore.
Mais ouais, en gros, c'est fait avec le même système de code qui est en gros, bah, tu détectes ton visage, tu vas accrocher à ton visage, etc. Le but.
Et là, t'as un logiciel pour faire ça ou...
Ouais, c'est, ça s'appelle Spark AR.
Okay.
Là, ça fait un petit moment que j'ai pas mis les pieds dessus. Mais ce système de Nodal, moi, j'ai fait du développement il y a très longtemps. J'ai un bon DUT informatique.
Et, le fameux.
Et ouais. Le fameux. Mais c'est vrai que le code, mine de rien, bah, t'as une barrière qui est quand même, peu importe le langage duquel tu repars. T'as toutes les librairies à aller chercher, tu vois, il faut avoir au moins être posé dans le truc, tu vois.
Ou alors avoir la déter, en fait, ça suffit.
La déter, ouais. Et c'est beaucoup de documentation, c'est beaucoup de débugage aussi, tu vois. Enfin,
faut être prêt à mettre un petit peu les mains dedans, quoi.
Ouais, et je sais pas quelle est la perception encore, tu vois, du Nodal de la part des développeurs, j'ai peur que ce soit un peu vu parfois comme le chétane.
Je sais pas, pas forcément.
Je crois que les gens entendent.
Je vais en parler justement.
Ils viennent tous de se désabonner.
Non, moi, je vais en parler justement un peu après parce que je suis un peu en plein là-dedans aussi. Et je me rends compte, je réfléchis vachement à ces nouveaux systèmes de no-code et tout. Bah, en vrai, je peux directement rentrer dans le vif du sujet. Mais moi, ça fait à peu près une semaine que je prépare un sujet sur tous ces outils-là, sur le no-code. Alors, je ne veux pas parler du no-code en tout parce que le no-code, ça regroupe vraiment tous les outils qui permettent de faire des choses un peu poussées sans avoir à écrire une ligne de code. Donc des choses qui habituellement par le passé auraient nécessité un freelance ou une armée de développeurs, et ben là tu peux le faire sans ça. Mais après il y a différents niveaux entre guillemets de difficulté. C'est-à-dire que t'as Wix c'est considéré comme un outil de no code parce que avant pour faire un site internet tu devais coder des trucs et maintenant avec Wix tu peux ne plus le faire. Bon ça c'est vraiment la version entre guillemets très accessible.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non. Tu connais,
j'avais WordPress avec W3 Total Cache.
Mais déjà,
à l'ancienne.
Moi, c'est déjà bien, c'est un niveau dessus. Ouais.
Désolé, j'ai commencé avec Dreamweaver dans des vieilles années.
Le sombre bail.
Aïe, aïe, aïe. Non, ouais.
Publisher.
Oh, mon Dieu.
Mais mon Dieu, mais vous êtes
Des vieux en fait, hein. Voilà. C'est pas compliqué, il y a un seul mot. Hein.
quand j'étais gamin, mon oncle m'avait installé Dreamweaver en mode tiens, débrouille-toi, commence à regarder. J'avais appelé mon site sobrement humour.com. Bien sûr, je ne l'avais pas. Donc je le lançais sur mon ordi, je faisais c'est mon site. Et je ne comprenais pas que quand je tapais humour.com, ça ne redirigeait pas chez moi.
C'est quoi ? J'ai cru au moment où tu l'as dit, j'ai cru que quand tu étais petit, tu avais
lancé un empire.
Non mais tu avais chopé le nom de domaine humour.com
et je l'avais abandonné.
Tu l'avais oublié.
C'était mon Bitcoin.
Ouais grave, c'était
non.
Tu avais perdu le mot de passe.
Voilà, c'est dommage parce qu'il y a quand même un super site actuellement. Ah. J'en aurais fait peut-être quelque chose de mieux. Voilà.
De mieux, c'est probable.
Voilà,
il y avait
terrible.
Des super images.
Donc ça c'est vraiment le niveau 1 on va dire du no code, c'est des petits outils comme ça à la Wix. Et ensuite derrière dans le no code, tu as une sous-catégorie qui est vraiment celle que moi je ponce en ce moment, qui sont vraiment les trucs qui permettent de lier des services entre eux. Alors tout le monde connaît le genre IFTTT.
Ça a été ma vie quand je l'ai découvert.
Exact.
Maintenant qu'ils ont tout limité, mais
maintenant que c'est 90€ l'applette.
Ouais,
on va en parler parce que c'est justement dans les sujets qui sont intéressants avec toutes ces histoires de no-code. Donc IFTTT, je pense que tout le monde connaît, mais c'est les initiales pour If This Then That.
Et c'est une façon de créer des micro-algorithmes. C'est vraiment la plus basique de la version la plus basique d'un algorithme qu'on puisse faire, je pense, qui est de dire bah, s'il se passe telle chose sur tel service web, genre si je reçois un mail sur ma boîte mail, eh bien alors je décide qu'il va se passer quelque chose. Et c'est ça la diff, c'est que c'est pas quelqu'un qui a écrit pour vous 10 trucs différents. Non, c'est vous qui choisissez parmi plein de d'applets, je sais pas
comment ils appellent ça. Ils appellent ça comme ça. Ouais.
Voilà, des petits modules, quoi, et vous pouvez les connecter entre eux et créer voilà, des chemins logiques.
Tu sais que moi, j'en avais un pour un truc ridicule.
Ouais.
Pendant des années, je voulais partager les photos que je postais sur Instagram, sur Twitter. Sauf que le truc officiel d'Instagram a toujours été atroce parce qu'ils mettaient les hashtags après et le lien. Et sur Twitter, c'est horrible parce que tu te retrouves avec des posts avec 16 hashtags.
Et le pote n'est pas la vidéo, la photo, pardon, en plus. Tu vois,
oui, mais
tu
as juste un lien. Et donc j'avais un IFTTT un peu custom, genre, tu sais, avec une expression régulière à la con, tu vois, juste pour virer ces hashtags de merde et vraiment uploader la photo sur Twitter. Et juste pour faire ça, j'étais très heureux.
Bah voilà, vous avez un exemple. Bah, attends, Légion CFC, tu parles de Zapier et d'Integromat, tu vas trop vite, ça arrive un peu plus tard. Mais IFTTT, effectivement, c'était un des tout premiers trucs qui a fait découvrir, je pense, au grand public ce qu'était. Et encore, le grand public, c'est beaucoup dire.
Faut le dire vite,
oui, ouais. C'est un public de bricoleurs, mais.
Voilà, exactement. Mais ça a fait découvrir à tout le monde quel était le potentiel, on va dire, de ces technologies-là, qui sont un peu plus ouvertes, sans l'être non plus trop. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire du code sur IFTTT, c'est pas du tout le mood, quoi. Il y a environ 3 boutons sur ce site, c'est écrit en police 26.
C'est vrai.
Je vois très mal.
Je sais pas pourquoi ils font ça. Et donc voilà, c'était un des tout premiers trucs. Et puis derrière, tu as des trucs un peu plus complexes qui se sont créés, de type Zapier, où justement, eux, ils ont décidé d'aller vraiment un coup plus loin. C'est-à-dire que là où IFTTT, ça, c'est un truc très grand public et où ça va te permettre de, je sais pas moi, quand t'as un abonné sur Twitch, de faire clignoter ta lampe Philips Hue, et ben là, Zapier, c'est vraiment pour un public un petit peu plus professionnel, donc va falloir payer. Mais en fait, c'est le cas de...
Je vais payer.
J'écoute plus.
c'est le cas aussi de IFTTT maintenant, mais je passe un peu vite sur les sujets de thunes, parce qu'on va revenir dessus, parce que c'est un des critères intéressants quand même, pour savoir si oui ou non, le no-code c'est cool, qu'est-ce que ça vaut et tout. Donc Zapier, ça c'est vraiment la version tryharder de IFTTT, on va dire. Enfin, la version difficulté médium, où tu as probablement beaucoup plus de services qui sont intégrés. C'est peut-être des services qui sont un peu moins grand public, donc c'est pas, tu vas peut-être pas avoir ta lumière connectée ou la sonnette de ta maison, parce que c'est pas vraiment fait pour ta maison, même si tu peux, mais c'est plutôt voilà, pour aller connecter, si t'es à ton compte, si t'es à ton compte, tu peux connecter à la fois ton truc qui génère tes factures et, je sais pas moi, ton Google Drive. Je te prends un exemple extrêmement...
Mais c'est hyper fun ce que tu racontes.
Très ennuyant, tu vois. Mais il y a un côté un peu plus pro comme ça, mais où tu peux créer quand même des dingueries.
Non, mais c'est, oui, les réseaux sociaux, les machins, tu peux connecter.
Exactement.
Ouais.
Tu peux faire en sorte que quand il y a un nouveau tweet sur ce hashtag-là, bah, en fait, il se passe un truc à l'autre bout de la planète. Ta serrure se fait... C'est compliqué de donner des exemples parce que c'est complètement libre d'imagination, quoi.
C'est ça qui est fascinant. Moi, je sais que, ne serait-ce que sur IFTTT, j'avais déjà vraiment, ne serait-ce que de connecter des events, tu vois, de deux services, tu te dis, mais c'est improbable.
Ouais.
Et j'avais fait le truc le plus stupide que j'avais fait avec ça, c'était avec Luciole, à l'époque, on bossait ensemble. Et j'avais fait un truc odieux sur elle et elle m'en a jamais voulu.
Je m'en souviens.
Et qu'est-ce que j'avais ri.
C'était bon.
Et on avait tous ri d'ailleurs.
C'était quoi
En gros, on avait fait un jour pendant qu'elle était
allée. Luciole qui aide Squeezie dans ses vidéos notamment.
C'est excusé aujourd'hui.
Et là, elle n'avait pas autant d'abonnés. C'était plus discret quand même parce que là, je pense qu'elle m'en voudrait. J'avais énormément de photos dossiers d'elle puisqu'on se connaît très bien. J'avais fait une photo par heure avec son visage et une horloge. Et en fait, toutes les heures, ça changeait sur son compte. Son image, mais elle ne savait pas d'où ça venait parce que j'avais juste connecté le compte discreto sur son ordi quand elle était partie pisser. Et donc ça a duré 24 heures où toutes les heures elle ne savait pas ce qui allait se passer.
C'est génial.
Sur sa photo de profil.
Il y avait toutes les heures, il y avait une photo horrible avec une grosse horloge. Et moi je me souviens de ce jour sur Twitter qui était mémorable. Il y avait vraiment derrière Luciole
si
qui a fait ça, qu'est-ce qui se passe et tout.
Bon, elle avait une idée. Donc,
elle avait une idée, c'est vrai.
Et c'était fascinant. Ah ouais. Et voilà, mais en fait, c'est. J'aime beaucoup l'idée de détourner cet usage de, tu vois, changer une profil pic, c'est pas un truc qui est très intéressant de base, mais tu vois, tu peux faire, bah, s'il fait moche chez moi, je peux mettre une photo d'orage, tu vois, j'en sais
rien. C'est
très...
C'est ça qui est dingue, c'est que tu peux transformer un truc, une action qui peut paraître anodine, et en action mind blown.
Ouais, qui, alors que bon...
En rajoutant exactement une interconnexion entre différents systèmes.
Totalement disruptif.
C'est extrêmement disruptif.
Pourquoi
effectivement.
On n'est pas sur Clubhouse?
Mais je comprends pas pourquoi cette émission n'est pas sur Clubhouse.
Tous en fait. Partir, on va refaire cette émission sur Clubhouse.
Avec invitation uniquement, ok, c'est noté. Ouais. Seulement sur iPhone. non, voilà. Donc Zapier, c'est la version Medium, on va dire. Et ensuite, j'ai découvert d'autres choses que Zapier. Notamment un autre site qui s'appelle Integromat. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu, ça ressemble à ton système nodal. C'est que au lieu d'avoir des actions les unes après les autres, tu as des petites bulles comme ça qui se connectent les unes aux autres.
Tu peux refaire la danse des bulles.
Des petites bulles qui se connectent
et avec,
des. J'ai envie de développer.
J'y suis.
Donc il y a des petits filtres, il y a des, enfin t'as des systèmes pour faire des boucles, etc. Mais c'est une façon de repenser comment on fait en sorte que les algorithmes deviennent intuitifs et accessibles. Pour tout le monde en fait, parce que en tant que développeur tu vois, t'as vraiment ce truc où t'as appris l'algorithmique, tout paraît évident dès que tu vois une séquence d'instructions, peu importe à peu près le langage, tu sais, t'as une intuition de ce qui se passe. Il faut se dire que c'est pas le cas du tout de la majorité des gens, et donc il faut essayer de trouver des solutions pour réinventer un petit peu que là, vous avez vu, non mais franchement c'est hyper smooth en vrai, honnêtement.
Ah oui, c'est beau, hein. Okay.
Par rapport à Zapier, j'ai trouvé ça vraiment un cran au-dessus. Il y a peut-être un peu moins d'intégration, mais c'est impressionnant. C'est avec ça que je voulais vous faire une démo. L'idée des démos que
sur l'iPad,
c'est dommage, sur l'iPad qui n'a plus de batterie. Mais l'idée de démo que je voulais faire, c'était un exemple tout bête, mais
quand tu vas la décrire, c'est hyper triste.
Ouais, mais c'est un truc que les gens connaissent peut-être parce que c'est Tom Scott qui l'avait fait sur YouTube. Mmh. Mais en gros, c'est d'afficher dans le titre du live le nombre de viewers.
Ouais.
Génial.
C'est con, hein.
Il y avait eu un truc
mais
comme
c'est,
ça.
Moi, ça me rien que ça, je trouve que ça, c'était c'est un exemple hyper parlant, quoi.
C'est classe.
C'est dommage qu'on peut pas le faire.
Et il y avait, il y avait une vidéo aussi qui mettait son nombre de vues à jour sur sa thumbnail.
Voilà,
sur,
c'est pour ça. C'est que
Tom Scott qui a fait ça. Ouais.
L'idée vient d'un YouTuber qui s'appelle Tom Scott et qui avait fait ça et qui, ça lui permettait de. Vous pouvez aller la voir cette vidéo.
La vidéo s'appelle cette vidéo a vu.
Ouais. Voilà, et... vous pouvez du coup pas la chercher directement. Mais si vous tapez Tom Scott, ça marchera. Mais ouais, ça lui permettait de parler un petit peu des API, qui sont les technologies qui permettent aux différents services d'être interconnectés entre eux. Donc voilà, le service que je voulais dont je voulais vous parler, c'était ça, c'était Integromat. Vraiment, je vous conseille de jeter un œil. Ah bah, c'est vraiment, c'est pas du tout, enfin ça fait pas peur du tout. Voilà, c'est celle-là. Incroyable.
Ah oui.
Donc, 27 millions.
Oh, et c'est non, ça m'avait vraiment
voilà, typiquement ce genre de truc aurait pu très facilement être fait. Là, lui, il a dû écrire du code, il a dû le mettre l'héberger sur un serveur, donc
avec un cron.
Mais voilà, c'est ça, hein, mais il doit payer les frais pour son serveur, etc. Ça aurait été probablement 3 blocs sur un service de type
et donc,
de type
ce no service code. Là a les interconnexions pour faire ça, genre
exactement. Alors okay. Tu vas un peu,
t'as vu, je leur lance.
Vous êtes un duo ou quoi?
On est un duo, mais déjà en fait.
McFly et Carlito ou quoi?
On va créer une nouvelle chaîne YouTube, je pense. Non, mais ce qui est dingue, c'est que t'as effectivement une capacité à créer des trucs complexes en littéralement 3 blocs. Mais comme tu le disais, tu vas dépendre du service à tous les niveaux. C'est-à-dire que pour l'hébergement, c'est pas toi qui le fais, c'est un service extérieur qui le fait. Là où sinon t'as ton propre entre guillemets serveur. Qui peut t'héberger ailleurs ou qui peut être chez toi, peu importe. Au niveau de l'information, c'est-à-dire que ton algorithme, il n'est pas portable. Tu ne peux pas du jour au lendemain te dire « Ah bah tiens, cette librairie que j'utilisais, bah, j'ai envie de la changer, j'ai envie de prendre autre chose. » Ou alors « J'ai envie de copier-coller mon code et d'aller ailleurs et de le lancer ailleurs. » Tu n'as pas de portabilité entre ces différents services. Donc toute la production, entre guillemets, enfin tout le temps que tu passes à l'implémenter, et ben ça c'est du temps qui va être perdu si tu veux changer après. Oui. Donc ça c'est quand même pénible. Après tu perds pas la logique, quoi. Ton algorithme tu peux le porter, ça c'est, il y a un moment si t'as réfléchi ton truc, il continuera de fonctionner, mais voilà.
Et du coup,
et donc ça c'est, il y a ces deux aspects, et troisième truc, c'est le prix. J'y viens parce que c'est hyper important. On n'est pas du tout, mais alors du tout, sur la même valeur du temps de calcul, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter vous allez sur un hébergeur, vous pouvez acheter un petit serveur à 3 euros par mois et il va pouvoir effectuer, je sais pas moi, des millions d'actions par seconde, quoi.
Alors que ces services sont atrocement chers.
Alors que ces services, ouais, souvent, ça dépend justement lesquels, exactement, ils font, bah, il faut bien qu'ils aient un modèle économique, mais ils vont faire payer cette action, chaque interaction, chaque tout, quoi, c'est fois 100, quoi, ou fois 1000 sur le coût que ça aurait été si on mettait un peu les mains dans le cambouis.
Et, 1000% de marge, ça me paraît honnête. Ça me paraît pas mal.
Rentable. Mais du coup, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il existe, je sais pas si tu en as vu ou si tu en as cherché, mais des solutions open source qui te permettraient de reconstruire ça?
Alors, tu me donnes une transition.
Ça ne dérange pas que je m'interfère. T'es un
conducteur ou quoi?
Non, alors, j'en parlais un petit peu justement dans la dernière émission. C'est un outil que j'ai découvert qui s'appelle N8N, ou je sais pas comment ça se prononce.
N26. Non.
Ça, c'est autre chose.
Connaissez-vous N26? C'est une banque en ligne.
N8N, c'est ça, j'en avais parlé, et je crois que ça s'appelle Ney, ça se dit Ney ou
Ney. Ney,
je sais pas.
N26. J'ai une blague.
Ouais. Donc, c'est effectivement un truc que tu peux auto-héberger, mais comme il gagne beaucoup moins d'argent, tu as environ. Il est toujours mort de rire.
Elle est très efficace, cette blague.
Tu as environ 1% des intégrations, parce que la force. Pourquoi ces trucs sont chers? S'il y a une bonne raison, c'est parce que le travail est pré-mâché, c'est-à-dire que toutes les intégrations, soit les gens du service en question, ils ont eux-mêmes codé le truc, soit c'est les gens du service de type Zapier ou Integromat et tout, qui eux-mêmes ont créé le lien, quoi. Et donc là, t'en as beaucoup moins, mais du coup, tu peux le.
Et est-ce qu'il y a une communauté derrière qui code des nouveaux trucs?
C'est ça le but, c'est de développer la communauté, de pouvoir créer les intégrations nous-mêmes à défaut qu'elles soient faites par d'autres gens. Mais honnêtement, cet aspect, que ce soit 1000 fois plus cher, je ne veux pas être trop critique dessus, parce qu'il ne faut pas regarder les choses comme ça. Il ne faut pas se dire combien coûte une seconde de processeur. Ah, bah, vous faites 1000% de marge, c'est scandaleux. Ce n'est pas ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de dire.
Non, mais là, je suis très, très premier degré, moi.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est de dire combien de temps ça va te faire gagner, toi, tu vois. Parce que si ça se trouve, certes, tu vas payer vachement plus cher, mais en fait, tu vas pouvoir automatiser les trucs où jamais tu auras la déterre de prendre un développeur.
Tu vois, par exemple, mon truc qui upload les photos d'Instagram sur Twitter sans les hashtags, honnêtement, si c'est 20€ par mois, je le fais à la main. Tu vois, il y a une limite, quoi.
Mais ça dépend. Mec, si ça te fait gagner un truc qui te fait gagner 10 minutes par jour. Non, mais vraiment.
Attention, c'est très Clubhouse ce que tu dis.
Non, mais attendez, on est quand même passé. Moi, c'est un truc qui. J'ai l'impression d'avoir raté le truc qui fait que toutes les applications mobiles, pardon, qui étaient soit payante, soit gratuite avant, sont sur
abonnement.
D'abonnement. Excuse-moi, je ne sais pas si on a le droit de.
Tout est à nos services.
Est-ce qu'on peut arrêter de vouloir tout en fait mettre sous abonnement?
C'est à cause des venture capital. C'est incroyable. C'est-à-dire que les investisseurs sont là, genre, on veut des revenus récurrents.
Mais parce que.
Et du coup.
C'est l'aversion au risque qui, je pense. Ouais. Alors, vraiment, là, on est sur Clubhouse à fond.
Là, on parle d'économie finalement.
Non, mais c'est vachement intéressant.
C'est l'aversion au risque. Ah ouais, parfait. On a.
Alors,
petite remarque.
Pour le coup, ouais, c'est l'exemple que j'aurais pas choisi pour incriminer, parce que vu le.
La régie est virée.
On sent que la régie aime pas payer cet abonnement. C'est ça que je voulais dire.
Mais en vrai, je trouve ça assez honnête vu les prix au départ des suites à l'époque. Enfin, tu vois, c'était pas accessible du tout. Là, je trouve ça honnête. Déjà. Plus honnête qu'une application à 5-10 balles par mois qui va juste te permettre de, je sais pas,
faire
j'ai pas d'exemple,
quelle
mais
merde,
tous ouais, les trucs.
Effectivement, comme le disait
Unfold, tiens, exemple. Ouais. C'est une application pour faire des stories Instagram un peu jolies, tu sais, avec des presets un peu sympas. Voilà. Ils pourraient te vendre des packs de presets récurrents, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais ça coûte genre.
Non, en fait, moi, ce que je trouve vraiment énervant, c'est quand un truc qui fondamentalement, tu le sais que c'est pas censé être un modèle d'abonnement, passe en modèle d'abonnement, tu vois. Quand c'est un truc où tu sais, genre, je sais pas moi, c'est un jeu qui a 12 heures de vie ou un truc ou un équivalent dans le logiciel et qu'ils le vendent en format d'abonnement, ça n'a aucun sens, quoi. Il y a des trucs qui sont faits pour être payés en one shot et des trucs où ça a peut-être plus de sens parce que, bah, mine de rien.
Du coup, où est-ce que tu mets la barrière? C'est hyper intéressant.
Bah, là, par exemple, non, je pense que ça va dépendre de chacun. Tu vois.
Ils ont choisi globalement tous sur la.
Non, non, mais vous, tu vois, non.
Mais tu vois, moi, ça me choque pas pour du no code parce que fondamentalement. Tu vas avoir un truc qui a de la valeur chaque mois, je sais pas comment l'exprimer,
oui, je vois ce que tu veux dire. Oui.
Tu as un truc qui est hébergé sur leur serveur et tu as des choses qui se passent chaque mois qui justifient que tu as un paiement mensuel, tu vois. C'est pas comme si
peut-être pas 60€.
Voilà, et c'est ça où justement je trouve ça intéressant de fouiller vraiment le sujet là pour vous présenter plein d'outils différents. Il m'en restera un qui est vraiment un des plus intrigants que j'ai trouvé, que je vais vous montrer juste après. Mais c'est ça où je voulais creuser justement, parce que genre IFTTT, ils sont passés d'un truc quasiment gratuit au début. Maintenant, il y a eu un exode d'IFTTT qui était monumental, quoi.
Vous vous souvenez, est-ce que vous avez reçu le mail hyper triste du président qui était là? En fait, il y a eu deux mails. Un mail pour dire on lance des fonctions pro, mais vous inquiétez pas, le gratuit reste. C'était faux.
C'était faux.
Et un mail une semaine après pour dire on est vraiment désolé. Si vous lisez ce mail, restez. Mais vraiment, ma femme n'est plus là. Je sais pas quoi faire. J'ai une sèche de jardin, les gars. C'était incroyable. Le mec était en dépression, quoi.
Mais moi,
j'étais fou.
Ils avaient envoyé une flopée de mails en mode ouais, votez pour comment vous aimeriez bien qu'on mette ça payant.
Oui. Bah, il y avait un sondage.
Et c'est bien.
Alors, nous allons vous prendre 60 euros. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse maintenant?
Et tu devais sélectionner quelques applettes que tu pouvais garder. Bien sûr, je ne l'ai pas fait, donc j'ai plus rien. Mais ouais, c'est bon.
Non, c'est ça. Ça peut vite devenir cher. Il faut être intelligent sur. Il faut être intelligent sur ça. C'est-à-dire que si ça peut vous permettre, je sais pas moi, d'automatiser des petits trucs par-ci par-là, ça peut vous permettre, honnêtement, pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat ou des trucs comme ça. Grâce aux outils de code, et j'en parlerai plus dans ma vidéo, mais vous pouvez littéralement créer un site, avoir une base de données, un truc de logique derrière, entièrement avec du no code, intégrer des services, etc. Donc en deux jours, tu peux tester une idée, tu vois. Tu peux vérifier s'il y a des gens qui s'intéressent. Exact. Je pense que ça a vraiment un intérêt sur du testage, ça se dit, non?
Du testing.
Du testing. Ça a vraiment un intérêt là-dessus, vraiment en tant que proof of concept, comme on dit.
Ouais.
Mais clairement, si au bout de 2-3 jours tu te rends compte que c'est en train de prendre, il faut coder ton truc. Enfin voilà, il faut prendre un développeur.
C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience de développeurs qui sont appelés sur des boîtes qui ont explosé du jour au lendemain parce que l'idée était trop bonne, mais qui faisaient du no-code et où du coup il y a des devs qui sont obligés de rattraper la merde derrière. D'un truc qui est fait au final de presets.
Bah, en fait, il faut pas.
Gloobie-boulguer ensemble.
Pas créer, quoi, comme on dit, je sais pas s'il y a des gens qui ont dit le terme sur le chat, mais il faut pas créer de la dette technologique. Qui est en gros le fait de créer ton. Pardon, là,
je te rappelle que j'ai 4 de QI, c'est un peu trop.
Ouais, ce terme m'intéresse. Enfin, je trouve intriguant.
Parce que. Non, c'est le fait de.
Tu es en train de dire. Ce que tu dis ne m'intéresse pas.
Si, non, au contraire. Au contraire. Je trouve.
J'attends une extrême violence.
Non, mais c'est tout l'inverse.
En fait, c'est le fait de bâtir ton entreprise et ton service et ton produit sur des fondations.
Ah oui.
Propriétaires.
Par exemple, ça peut être.
Stable, quoi.
Ça peut être plein de choses. Le fait que, en fait, dans tout ton projet, tu vas avoir. Dans tout ton projet, tu vas avoir une petite librairie. En fait, elle est maintenue par une personne. Et personne n'est au courant dans la boîte parce que l'organisation de maintenant aujourd'hui de du code et des systèmes de librairie, etc., fait que tu peux avoir un gars, s'il arrête de maintenir, s'il y a une vulnérabilité dans son truc, dans son petit projet, le mec il est au Nebraska là, s'il y a une tempête et qu'il peut pas patcher, tu peux avoir une entreprise qui a 3000 employés et qui s'effondre, tu vois.
Cool, ouais.
Ou ça peut être plein de sous plein d'autres formes, cette dette technologique, mais en gros c'est cette idée de te dire ok, on investit pour faire les trucs proprement.
Oui.
Il faut pas le faire trop, il faut pas être un maniaque non plus, et tu peux pas faire le produit parfait et attendre 3 ans avant de sortir quoi que ce soit, tu vois. Mais quand même, ça vaut parfois le coup de se faire un petit peu chier sur par exemple la cybersécurité, tu vois, sur des trucs comme ça qui peuvent paraître pas
important. Pas besoin de Norton donc.
Tu montres une start-up, franchement, je pense que y a plein de gens à qui ça vient pas l'idée, et puis c'est pas forcément dramatique, mais en fait ça peut te retomber sur le coin de la gueule dans 2 ans en mode
froissant. Ouais.
C'est cette idée là
je serais en panique,
mais c'est vrai que non, je pense que en tout cas moi IFTTT je le voyais vraiment comme un truc pour connecter des services perso entre eux où tu t'amuses un peu et t'as un truc marrant, mais oui, tu vas pas
pour lancer ma start-up.
Ouais.
C'est là où le no-code a vraiment est très très large. C'est que ça peut aller d'automatiser un peu votre domotique, pour les fans de domotique. J'en parle pas tellement de domotique.
Comment ça à regarder la JDOM un peu de loin. Ouais. Mais je suis pas encore mis là. Il faut que
je mais ouais, moi je suis un peu passé à côté de ça.
C'est
côté
un
de
peu
la
chiant. Non, premier degré.
Non, mais c'est bien, nique notre.
Non, pardon. Mais en fait, du peu que j'ai fait pour mon studio, là, pour machin, ouais. Parce qu'on a quand même des trucs connectés que les gens voient pas pour que tout marche bien, c'est insupportable. C'est-à-dire que vraiment, tu as plein de fabricants de matériel différents,
oui,
qui parlent plus ou moins bien avec Google Home. Google Home lui-même, ça a beau être produit par une multinationale incroyable, Ça marche pas si bien que ça, honnêtement.
Mais t'as quoi t'as tout connecté à ton Google Home ou t'as un truc
J'ai tout connecté à mon Google Home. Et en gros, il y a des trucs. Par exemple, il y a un de mes projecteurs au plafond de mes lumières de studio. C'est con, mais j'ai dû acheter un petit robot qui appuie sur le bouton power. Parce que la lampe est dans le plafond, la brique power aussi. Et quand j'allume le matin, il faut que le petit robot appuie sur power. Sinon, la lampe reste éteinte, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont connectés chez moi.
Assez convaincu par cette idée de petit robot qui
appuie sur le bouton.
Je pensais me moquer et j'ai fait, bon, c'est pas mal.
Bah ouais, sinon, il faut que j'aille dans le plafond allumer ma lampe, tu vois. C'est con.
Non, mais honnêtement, quand tu l'as reçu, on s'est un peu tous foutu de sa gueule.
Est-ce que ça marche?
Oui. Entendant.
Chez.
Mais pas forcément.
Non, mais ok, si on prend du recul sur la situation. Non, mais juste, je sais que. Enfin, bon. On prend un peu de recul sur la situation.
Jamais bon.
J'avais pas le choix.
Tu as commandé.
Oui.
Un appareil.
Oui.
Avec un petit bras comme ça.
Oui.
Et le petit bras, il est connecté à Internet.
Oui.
Et il fait clic.
Et quand je fais d'accord, Lycos, allume le studio. Ça allume mes prises, mes nanolifs. Je suis obligé parce qu'il y en a et par ici, donc ça va gueuler. Et le robot, et j'entends en plus, ça fait un bruit, ça fait... C'est très déstabilisant au début.
Tout ça pour connecter un putain d'appareil qui a un petit bip.
Parce que mon projecteur à puture...
Non mais c'est, franchement, honnêtement...
Voilà, il s'allume pas si quelqu'un
ne
pas sur power.
Et
donc c'est un peu de la merde.
Les gens demandent à le voir. Ah, je sais pas si tu as fait une story.
Je crois que j'ai une vidéo Instagram.com/hardisk. Followez-moi bien sûr. C'est le deuxième réseau que je plug
d'accord,
ce soir.
Lycos. Mais c'était beau.
Mais ouais, toi, du coup, t'as regardé un peu la domotique aussi à côté.
Bah, justement, je disais que j'étais un peu passé à côté. Je sais qu'il y avait, par exemple, il y a un projet open source. J'ai oublié le nom, mais
Gidom, je pense.
Peut-être. Ouais. Mais qui vraiment a des interconnexions avec énormément de services différents. Ouais.
Et pareil, t'as des plugins payants dessus.
Ah oui,
voilà. Tous les plugins, il faut les acheter. Enfin, pas tous. Ouais. En tout cas, apparemment, c'est très bien foutu. J'ai commencé à regarder vite fait. Là, je voulais.
Ouais, j'ai vu dans le chat que les gens avaient trop
ça. Ouais, je voulais faire ça. Et pareil, tu vois, tu achètes des e-lights qui sont des ampoules pas très chères, machin, tu peux les connecter. Pareil, si t'as un U, j'imagine que tu peux le connecter et au moins avoir une sorte de boîtier qui centralise un petit peu tout. Des conneries au milieu, donc prenez pas
tout ça pour arriver chez toi et qu'avec ton GPS, on allume tout à ta place et que tu n'aies pas à faire.
Exact. Moi j'ai vraiment, mais par contre,
ça, honnêtement, la domotique,
non, quand je me lève le matin, le café il se fait tout seul.
J'exagère, mais c'est un peu ça.
Mais tu vois, pareil, c'est juste l'envie de connecter des trucs ensemble et de mettre le système.
C'est 100% passer... plus pour le plaisir que pour la réelle valeur ajoutée.
C'est là où on trouve.
Ouais, mais tu vois,
voilà, c'est Home Assistant le truc dont j'avais entendu parler moi. Ah. C'est différent de GDOM.
Je trouve qu'il y a plein de problèmes dont on se rend pas compte et qui sont très peu discutés. Tu vois, par exemple, tous ces trucs dont on parle depuis tout à l'heure où t'as le café qui machin. Au final, le robot qui appuie sur le truc du café, il a une mise à jour de firmware dans 6 mois qui va casser l'interconnectivité avec Google Home. Du coup, tu vas aller sur un forum parce qu'un mec il a fait un custom firmware pour le machin truc. En fait, tout est comme ça, tu vois. Et c'est assez insup. Il n'y a pas de vraie solution. Alors, il y a Apple, évidemment, HomeKit, machin.
Petit à petit, je pense.
Mais il n'y a pas de vraie solution vraiment propre, stable. Il y a un problème de stabilité domotique, je crois.
Ouais. J'ai pas assez
de sagesse
en bouillant encore, mais...
Non, mais justement, moi, je voulais rebondir sur un truc. Elle dit, je suis un dev qui a
un très bon copain, moi.
Ah ouais,
on était dans la même boîte.
C'est vrai.
Bisous.
Et bah, moi, je regarde de près son blog, qui est vraiment hyper intéressant. Qui est plutôt destiné aux développeurs, mais comment regardez, vous êtes autorisé, la porte est ouverte. et du coup, il disait que notamment, tu avais certains outils de no-code qui permettaient d'exporter du code, mais c'était souvent une petite publicité pour du contenu de qualité. On donne de la Sephora. Il disait que parfois, tu pouvais exporter du code des outils, tu vois. Genre, je crois que Webflow le fait. Tu sais, Webflow, c'est le Wix du tryharder en fait. C'est-à-dire que tu as une interface à la Photoshop et tu peux concrètement faire plus ou moins ce que tu veux. C'est vraiment sympa dans l'idée, mais ce genre de truc permet de sortir du code, mais souvent, c'est pas la même chose que si tu le fais toi-même. Quoi. C'est ça qu'il voulait dire. Et du coup, justement, ça me permet de rebondir sur la dernière pépite dont je voulais vous parler.
Incroyable. Petite pépite.
Et ce sera ma recommandation. Ce sera ma recommandation, du coup. Après, vous pourrez donner les vôtres. Une petite pépite que j'ai découverte qui s'appelle Pipe Dream. Alors, en gros, l'idée, c'est de dire...
Quoi ?
Pipe Dream. Comme,
tu peux le redire une dernière fois ?
Pipe Dream.
Super.
L'idée, c'est de dire, OK, les outils à la Zapier, etc., c'est cool, mais on dépend de plein de gens pour créer ces modules et ces intégrations. Donc, c'est un petit peu relou. C'est-à-dire que tu dois attendre... En gros, tu dois attendre que le mec chez Twitter ou le mec dans le service, il crée le petit module qui fait que tu as une entrée, une sortie...
et tu te connectes à ton compte Twitter, et derrière, tu vas pouvoir automatiser le fait de faire un tweet. Il faut que quelqu'un travaille sur ça. Et donc, parfois, toi, tu veux faire des trucs, entre guillemets, tu veux faire des trucs complètement custom, et t'es un peu dans le... Tu peux pas leur envoyer un fichier zip avec... Voici mon module perso que j'ai fait moi-même. Vous pouvez l'intégrer à votre site. Genre,
fais-le en prod.
Jamais.
Dis donc, Marc.
Et parfois aussi t'as un peu un côté absurde au no-code où, de temps en temps, faire un truc avec une ligne... En fait, t'as besoin d'une ligne de code pour en faire 12 avec les modules qu'ils ont prévus. Tu sais, t'as ce truc où certes tu peux gagner du temps pour des choses simples, mais parfois juste, genre t'as une chaîne de caractères, tu dois la traiter, tu dois faire un truc un tout petit peu compliqué avec, et tu dois passer par des stratagèmes pour essayer de contourner le fait que c'est pas fait pour ça, tu vois. Et donc eux, ils se sont dit, ok, on va faire table rase, et on va faire en sorte que tout soit du code, en fait. Mais en gros, d'un côté, tu vois, tu as vraiment le no-code où tu n'écris pas une ligne et où tu n'as que des jolis boutons. De l'autre côté, tu as vraiment le code pur où tu dois gérer toi-même la connexion aux API, des services. Tu dois récupérer le token de Google, machin, tu vois.
Une partie de plaisir.
Voilà, tu as ces deux opposés-là. Et les deux ont des gros inconvénients. Et eux, ils se sont dit, on va merge les deux. Et on va faire pour vous tous les trucs un peu pénibles. Genre aller installer la bonne librairie, aller, je dis librairie depuis tout à l'heure alors qu'il faut dire bibliothèque. Je vais me faire attraper par le Framablog.
Donc hâte de voir leur clash. J'ai hâte. bibliothèque.
Donc oui, donc, ils vont faire pour toi.
Ils sont que sur PeerTube, donc ils verront pas ce stream ce soir. Ouais.
Ils vont faire
attention avec les libristes.
Hein. Et apparemment, la vanne n'est pas passée.
Et hop,
une mise en demeure. De ouais. Et hop, mon pote, ça t'apprendra.
Non, mais du coup, ils font tous les trucs pénibles, genre se connecter à ton compte Twitter, avec une API et tout. Là, ils te mettent un bouton se connecter à Twitter. Et tu fais autoriser et c'est terminé. Et en gros, ils t'enlèvent tout ce qui est pénible. Et toi, il te reste plus qu'à écrire tes 5 lignes de code qui étaient tout ce dont tu avais besoin pour faire en sorte que ton post Instagram, il apparaisse à la fois dans ta spreadsheet et qu'il envoie un mail à Tatiane, tu vois.
Mais je n'arrive pas à comprendre comment ça marche, en fait.
C'est-à-dire que, en gros, imagine Zapier. C'est la même chose que Zapier. Sauf que tu gardes seulement la partie s'authentifier automatiquement à des services. Et tu enlèves la partie logique. Et donc, après, toi, dans ton code, tu vas pouvoir référer à...
Le gain de temps me paraît pas incroyable parce que juste se loguer sur l'API d'Instagram et gérer le token, c'est pas non plus...
En fait, si tu veux faire des trucs complexes, tu perds un peu de temps à chaque fois. Et
donc, en fait, l'idée, c'est que sur leur service, pardon, du coup, pour être très clair, tu te logues à ton compte Instagram, par exemple.
Voilà, par exemple.
Et du coup, eux, ils ont juste une ligne qui s'appelle genre Instagram.post. Tu peux juste mettre dans ton code Instagram.post et il va savoir lui qu'il faut poster sur ce compte.
En résumé, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il va il va gérer l'hébergement, ça je l'ai pas dit, mais ton code est déjà hébergé chez eux. Il va gérer le débugage, c'est-à-dire que c'est comme à la Zapier, tu sais, tu testes chaque étape. On rentre dans des trucs un petit peu deep de nos codes, mais je pense que c'est intéressant. À chaque étape, tu vas pouvoir tester, vérifier. Parce que tu sais, entre aller regarder la documentation de comment Instagram, l'API d'Instagram marche, et juste envoyer la requête et voir, ah oh, tiens, ici c'est une image, ah oh, tiens, ici c'est le nom de mon poste. Zapier a cette idée-là que tu peux directement tester et coder en même temps, entre guillemets, même si c'est du no-code, mais tu as cette idée que la donnée et le code, tu les traites en même temps, tu vois, tu as les deux infos tout le temps en parallèle. Et du coup, là, il te règle ce problème-là, il t'héberge ton truc, il te gère tout, est-ce que, comme Zapier, il va te dire, est-ce qu'il y a une erreur il y a 3 heures, tiens, t'as... Il y a un moment pour tel post Instagram, ça n'a pas marché, ton automatisation, il va faire tout ce travail-là pour toi, tu vois. C'est un petit peu compliqué à expliquer parce que il faut avoir au moins une fois fait ce genre d'implémentation à la main, tu vois, pour se rendre compte de la valeur ajoutée, mais c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez aller voir ça si ça vous a intéressé. Ça s'appelle Pipe Dream.
Super.
Amusez-vous
cool.
Bien. Est-ce que vous avez des petites recommandations pour nous?
C'est un super service, moi, qu'on m'a conseillé quand on m'a... Je viens de déménager, ne cherchez pas mon adresse. Je viens de déménager dans un nouvel appartement et en gros, la boîte qui gère, enfin l'entreprise qui gère l'appartement m'a dit, il existe Papernest qui est un super système.
Et oui. C'est quoi Papernest?
C'est un service qui permet de déménager tous tes contrats en une seule fois. Donc tu as quelqu'un qui t'appelle et qui te dit voilà, dites-moi ce qu'il faut que je résilie, voilà ce que je dois ouvrir.
Ah, c'est trop bien ça.
Il s'occupe de ton gaz, il s'occupe de ton tout ce que tu veux. Et là, je me suis dit où est la douille ? Et à la nana au téléphone, je lui dis où est la douille ? Parce que après avoir passé mes 20, 30, 40 minutes au téléphone à tout gérer avec elle, j'ai trouvé ça génial, en vrai. Mmh. Et parce que t'as quasi plus rien à faire ensuite. Là, en gros, ce qui se passe, c'est que eux, forcément, ont un nombre de partenaires vers lesquels ils vont nous rediriger en fonction voilà, des besoins. Mais effectivement, j'imagine que parfois, certains plans, il faut peut-être bien jeter un œil pour ne pas surpayer. Est-ce que c'est ça très honnête ?
Est-ce que c'est pas un truc qui s'adresse aux... C'est quoi le terme ?
Branleurs.
Alors, il y a ça. mais les branleurs ont inventé un autre terme.
C'est ceux qui ont peur de faire des papiers.
Oui. Paperassophobe.
Ouais, c'était non. Ce mot-là, exactement.
phobie administrative.
Et d'ailleurs, c'était quelqu'un qui avait pas réglé ses impôts, une figure publique qui n'avait pas payé ses impôts, qui avait dit ça. C'était une très bonne excuse, que je comprends. Mais ouais, en fait, ça te règle tout. Tu n'as pas besoin de gérer tout ça. C'est bien fait. Je sais que parfois, ils essaient de glisser quand même un petit peu un truc à 5 euros par mois, qui va être une sorte de conciergerie un peu à la con. Donc, voyez, peut-être vigilant, entre guillemets. Okay. Donc,
mais je crois que moi, justement, j'avais regardé leur business model fait qu'ils veulent pas te vendre le... Ils sont censés pas te vendre, pas avoir intérêt à te vendre le truc le plus cher possible.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, le truc, j'ai eu des offres gaz, pas internet, je l'ai pas fait, je l'ai gardé, je l'ai fait moi-même. Mais gaz, EDF, tout ça, assez correct. Et franchement, c'est cool, quoi. Enfin, t'arrives dans un appart, c'est le dernier truc que j'ai envie de faire, c'est.
Ah, ça, il y a un côté effectivement assez magique. Ouais, je les ai utilisés juste pour envoyer une lettre recommandée, tout simplement. Franchement, c'est. J'avais la flemme de trouver le bon template et d'aller sur le site de la Poste. Hein. C'est aussi con que ça, mais...
Le site de la Poste, très bien pour envoyer des recommandés, c'est des courriers. Hein. Franchement...
Il fait des recos laposte.net.
En vrai, j'ai l'impression que personne ne sait qu'on peut envoyer des courriers par le site de la Poste.
Il y a beaucoup de gens qui le découvrent.
Trop bien. Ouais. Tu veux te désinscrire d'un truc en recommandé, tu balances là-dessus, c'est fini.
Ouais, de ouf. Est-ce que Hardy, si tu as une petite recoup pour nous ou
ouais, tapé recommandation
c'est
sur
un
Google.
Truc qui ouais. n'a rien à voir.
Est-ce que tu as tapé recommandation sur Google?
C'est au secours. Non, trop pas. C'est un truc que j'ai commencé il y a quelques semaines puisque les salles de sport avaient fermé depuis très longtemps. Ça m'avait un peu manqué. C'est une app qui s'appelle Freeletics.
Ouais.
Qui est une app
sport.
De fitness. Parce que je suis quand même une égérie fitness, on l'oublie assez souvent. Le Bibi, celui-là même. Et en fait, il y a un coach intégré qui va te filer des entraînements intelligents par rapport à ceux que tu as réussi ou pas réussi. Et en fait, je me bute à ça depuis 2-3 semaines. Et vraiment, ça me termine encore plus que la salle. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez faire un peu de sport, ne serait-ce que vous garder en forme, ou bon, pas là forcément pour faire entre DM les développeurs, tu vois, genre. Mais
ce qui est beau, c'est que tu as réussi à placer un petit truc d'entraînement sportif sur une émission d'IT. Et ça, c'est honnêtement.
Tu vois, c'est pas mal. Il y a de l'intelligence artificielle.
C'était
tu vois.
Premier degré. Non, mais c'était vraiment premier degré.
Et c'est vraiment très bien fait.
Est-ce qu'on créerait pas un mouvement de dev sportif ?
De dev in shape.
Oh. Oh.
C'est la marque déposée.
Marque déposée d'InShape. Il y a à mourir de rire, Yonix qui nous dit le directeur commercial FR de ma boîte a une phobie administrative. Du coup, les impôts lui réclament 80K car il n'a pas payé.
Ah, ce genre de problème de phobie. Ouais.
Aïe, 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 la phobie. La phobie qui fait mal. Écoutez, on arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous avez apprécié ce moment ? C'était sympa, franchement.
C'était incroyable.
Je sais pas.
C'était mieux que mon mariage.
Ça fait une bonne heure et demie, je dirais. On a eu le temps de voir pas mal de trucs. On a eu le temps de parler des nouveautés chez Frémaillot qui lance des trucs de dingue pour le montage du futur. On a pu parler de ce que nous prépare le bon Sylvain qui va être... Je veux pas lui mettre trop de pression. Donc ça va être très intéressant.
Non, mais ça va retourner le game, on peut le dire. Non, mais... Ça va être la meilleure chaîne Twitch. Non. Attendez, et ayez ses attentes. Surtout.
Je veux mourir.
Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver ça sur son Twitch quand il lancera ça.
Le 10 mars.
Le combien
Du coup, j'ai mis une petite date mars 20h30, ce qui sera peut-être en concurrence avec vous. Du coup, c'est extrêmement mal poli.
On va faire ça. Écoute, on va déplacer l'émission au lendemain.
Oh, ça me semble excessif.
On a eu le temps de parler un petit peu de no code aussi. Mm-hmm. Dans tous les cas, moi, c'est un sujet que je vais plus poncer. J'ai encore plein de choses à apprendre. Et peut-être que du coup après ce petit passage, il y en a parmi vous qui peuvent m'envoyer des outils qu'ils ont découverts, etc., pour que je puisse traiter encore plus largement le sujet. N'hésitez surtout pas à le faire.
tout ce dont on a parlé, si vous êtes arrivé en cours de route, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube dans les prochains jours. Donc abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez nous soutenir, c'est vraiment important. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez que c'est compliqué de lancer une émission.
Twitch Prime. Sur la chaîne de Micode.
Connaissez-vous ça, c'est pas le plus important.
C'est très important.
C'est quand même important.
si vous soutenez, c'est vraiment toujours un plaisir, bien sûr. Mais surtout, le plus important, c'est d'aller s'abonner à la chaîne, de follow cette chaîne YouTube, cette chaîne Twitch, je vais y arriver. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez découvrir notre partenaire, tout simplement, N26. Vous avez un lien dans le chat et dans les différentes descriptions. Merci infini à l'équipe d'N26. Hein. Que ce soit César ou Vincent, etc., qui va j'espère accepter de passer dans l'émission pour nous préparer des petites chroniques ou des trucs comme ça. Je sais qu'il était très motivé, donc ce sera trop bien. Donc merci à eux de leur aide. On travaille pas mal pour faire en sorte que ça s'améliore au fur et à mesure. C'est progressif.
Dites-lui juste que c'est déjà super en fait, parce que je pense qu'il fait partie de ces gens perfectionnistes qui bossent énormément
et qui
ne récupèrent pas à la fin, tu vois, le mérite.
En vrai, si, je suis très content. Honnêtement, après la première émission, j'étais vraiment quand même content de ce qu'on a fait. Trop gentil.
J'ai lancé une vague d'amour dans le chat.
C'est vrai. Merci beaucoup, les gens, ça fait vraiment plaisir. Petit à petit, on va améliorer le truc. Petit à petit, on sera peut-être moins stressé. Petit à petit, on fera en sorte que tout se développe tout se passe comme sur des roulettes. Allez envoyer de la force à N26 parce qu'ils ont pris mine de rien un risque en nous backant et en créant le projet de toute pièce depuis le début avec nous. Donc envoyez-leur de la force et voilà. Et nous, on se dit à très bientôt. Vous pouvez retrouver Hardisk sur sa chaîne YouTube.
Absolument.
Et sur Twitter, et Sylvain sur sa chaîne YouTube dans 6 mois
et sur Twitch.
Plus ou moins vrai. Plutôt vrai.
Non, c'est du charriage gentil, mais sur Twitch prochainement pour voir ses péripéties. Voilà.
Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation.
Et ben écoute, c'était vraiment très très cool. Et retrouver le podcast aussi normalement dès demain. Et puis voilà, c'est toutes les promos qu'on a à faire. Et à très bientôt. C'était Micode, Hardisk.
Salut
Sylvain.
Salut.
_.
Bonne soirée.
Salut. Bonne soirée.